Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et la comédienne Farah. Comment ça va?
Mais écoute, ça va super bien et toi?
Mais ça va super.
Après, je ne voyais pas mon micro, mais si, il est bien branché.
Au moment où j'enregistre, les scènes ont commencé à reprendre. Yes. Tu as d'ailleurs joué au Made in Bruxelles Show le 3 juillet. J'y étais présent.
Oui.
Comment c'est de retrouver la scène après 6 mois sans monter sur scène?
4. Mais c'est vrai que le ressenti était 6, voire 10 ans, je crois. Mais alors, le Made in Bruxelles Show, donc au MIP, c'était le deuxième. C'était la deuxième scène déjà. Donc il y a vraiment eu l'étincelle. Donc le premier, j'ai joué au Kings of Comedy Club, un plateau de PE, organisé par PE. Et donc il m'a gentiment invité. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur de jouer devant des gens masqués. J'étais un peu voilà. Et c'était merveilleux. Je pense que j'avais plus autant stressé depuis ma toute première scène parce que avec le temps on devient un peu des athlètes, donc on stresse mais plus autant. Et là j'avais vraiment mal à la cage thoracique. J'étais là mais mon Dieu. Et c'était juste incroyable. Le public était incroyable. Réentendre des rires, être sur scène. Je sais plus avec qui on disait ça. C'était comme une sorte de piqûre de rappel parce qu'on a été un peu comme ça pendant 4 mois sur pause. Et je pense qu'il y a un moment on était tous, on est bien comme ça, on pose et on oublie un peu cette drogue dure et un pied sur scène, c'est bon, on a refait un shoot, t'es là mais ouais, c'est là que je vais être tout le temps.
Ah bah c'est cool, et est-ce que tu penses que t'as besoin d'un petit temps pour te remettre à niveau ou t'es vraiment revenu et tu t'es dit c'était comme avant
J'avais peur, que je sais que j'avais fait le Comedy Live, donc le Kings faisait des interviews tous les dimanches, et quand j'ai vu la scène je me suis dit, ah, je vais devoir remonter dessus, est-ce que je vais pas trop stresser, est-ce que je vais avoir les mêmes la même énergie, est-ce que j'aurais pas perdu quelque chose. Après, c'était difficile de juger parce que j'ai testé que du nouveau matos, donc j'ai rien fait d'avant, parce que je trouvais ça un peu bizarre de faire comme s'il n'y avait pas eu ces 4 mois. Et non, j'étais directement à l'aise. Après, je testais, donc t'es forcément moins à l'aise que sur du nouveau, mais je pense que ça n'avait rien à voir. Et je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là, une fois qu'on remonte sur scène, c'est comme s'il n'y avait pas eu ces 4 mois, donc ça va, ça m'a rassurée, je peux continuer le métier.
Tu me rassures en même temps, parce que je remonte demain.
Demain
Demain, c'est la première depuis... je joue à Los Samuel à Scarbeck.
Tu vas voir, ça va être...
J'espère bien. C'est ma première scène en plus avec le What the Fun.
Oui, en plus, le public du What the Fun, c'est un public hyper bienveillant, donc franchement, kiffe, parce que ça va être un gros kiff.
Ah ben, j'ai hâte de kiffer. Mais moi, j'étais content, c'est qu'à la scène du Made in Bruxelles Show où je t'ai vu, c'est que ça a parlé un petit peu du Covid... Mais pas tant que ça, et ça, moi j'étais content. Oui. J'avais tellement peur qu'on ait une heure de blagues de Covid, comme on a eu pendant tout le confinement en fait.
Mais après, c'est très dur en tant qu'humoriste. Bon, j'imagine pour les autres artistes aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'humoriste, nous on parle du monde qui nous entoure. C'est vrai que moi par exemple, pendant le confinement, je voulais pas absolument poster des vidéos sur le confinement, sur les masques. Enfin, je pense que il y a assez d'anonymes qui l'ont fait, trop à mon goût. Donc voilà, et du coup, je voulais absolument pas le faire, mais je pense que on était obligé d'en parler, on pouvait pas faire semblant après chacun fait ce qui lui va le mieux, mais je pense que tout le monde avait besoin de ok, on part de ce postulat là pour nous amener ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc je pense qu'on peut pas l'éviter. Il y a des gens qui vont le faire à fond, je crois, en faisant des spectacles, en faisant des sketchs en entier. Mais je pense qu'à un moment, les gens, ça va un peu les raser. Surtout que là, j'ai vu que Florence Foresti faisait un nouveau spectacle et ce sera sur le monde d'après. Donc je pense qu'une fois qu'elle aura fait le spectacle sur le Covid, tout le monde pourra passer à autre chose. Donc voilà. Donc c'était cool. C'était un point d'entrée, mais il y avait pas que ça. Et donc c'était bien.
Ouais, je suis d'accord avec toi que si c'est un point d'entrée, ça va. Mais si j'entends une heure de spectacle là-dessus, je pense que j'en peux plus. Moi,
mais déjà, j'y vais pas.
Les mots gestes barrières, gel hydroalcoolique.
Plus. Moi, ça m'a. Oh là là, hydrochloroquine. Mais moi, je regardais plus le JT. Hein. Enfin, tout ce que j'ai dit sur scène était vrai.
Moi, je regardais déjà très très peu le JT avant, mais là, j'ai arrêté complètement.
Ouais, non, c'était trop pour moi. C'était vraiment en mode, tu vois, lavage de cerveau, quoi. Les mêmes mots tout le temps. Et bon, même si on a déconfiné, il n'y a pas beaucoup de sujets.
Non, c'est le sujet qui revient.
Tout le temps, la même chose.
C'est maintenant le nouveau truc de small talk. Quand tu commences à parler à quelqu'un, c'est hey, le confinement et ah.
Oui, c'est ça. C'est un peu, moi, c'est un peu l'équivalent de ah, oh, le temps. Bah oui, ma petite dame, c'est plus c'est que t'as vraiment rien à dire quoi si tu parles de ça bah, écoute mais d'ailleurs on en parle Régis donc ça veut dire que t'as déjà plus rien
on est coincé non j'ai plein de choses à te dire justement j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour
ne t'inquiète pas ne stresse pas je suis tout le temps en retard mais
y a pas de problème on peut aussi t'écouter t'as fait des chroniques dans le cactus sur Vivacité
ouais le 8-9 toute cette semaine
mais ouais. Je pense que quand ça sortira ça sera des vidéos que tu pourras écouter en retour mais tu vois
je les ai toutes postées sur ma page sauf celle d'aujourd'hui je l'ai pas encore postée donc il suffit d'aller sur ma page Facebook et ils peuvent retrouver toutes les vidéos c'était très très cool beaucoup trop tôt je suis pas du tout une personne matinale donc quand ils m'ont dit tu dois être là à 7h30 donc moi je sais qu'en tant que personne pas naturellement tu sais épanouie avec un glow et un highlight naturel je me suis dit oh là là je vais faire mes cheveux mais... donc debout à 5h donc ça pendant une semaine plus écrire une chronique par jour je pense que c'était ça qui était le plus au-delà du sommeil parce que tu peux rentrer et faire une sieste mais écrire tous les jours honnêtement j'aimais déjà beaucoup Jérôme de Warzé mais là il a mon admiration éternelle quoi parce que faire ça toute l'année tous les jours c'est un exercice de dingue
ouais une chronique par jour c'est vrai que c'est du costaud.
C'est super dur.
Par exemple, PE, il avait une chronique ici sur Énergie Super, ouais. Enfin, tous les vendredis. Déjà, une par semaine, c'est impressionnant. Mais alors, une par jour.
Mais oui, parce que je me souviens, sur Pure, je faisais aussi une par semaine et ça me semblait déjà. C'est du boulot, quoi, parce qu'il y a la recherche, etc. Après, j'imagine que Jérôme, il est tellement rodé que c'est un automatisme. Mais là, tous les jours. Alors, bon, comme j'ai été contactée il y a quelques semaines par la chaîne, du coup, j'avais le temps de réfléchir. Ok, je vais faire un fil rouge, mais quand t'es toute l'année que tu dois coller à l'actu. Mais c'était top, parce que du coup, ça m'a permis de vraiment écrire plein de nouvelles choses, me dire ok, je peux quand même être un peu drôle et c'était très très chouette.
Mais donc tu aimes travailler à la radio ? Les horaires moins ?
Les horaires, ouais, sur Pure aussi, il fallait être là à 7h20. Ça pour moi, c'est je suis pas du tout quelqu'un du matin. La Farah du matin, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que si tu m'écoutes le matin, je ne fais rien de ma vie. J'annule tout, je vois personne, je reste dans mon lit, c'est tout. Et bon, après, une fois que je me lève, je suis contente. Mais j'adore la radio parce que c'est un autre. On parle pas de la même manière à la radio que sur scène. On a le droit de plus peut-être poser les choses mais en même temps il y a ce côté aussi un peu impro avec les chroniqueurs, il y a un peu cette immédiateté. La télé par exemple je suis moins fan, c'est très formaté, il n'y a pas la place pour vraiment improviser mais la radio je trouve que ouais, c'est vraiment très très cool et puis t'as un retour immédiat avec les gens sur les réseaux sociaux, bon c'est pas toujours toujours agréable mais globalement c'est très très cool donc oui j'aime beaucoup la radio c'est vraiment très très chouette
donc tu dis que t'as pas des retours que agréables je suis curieux t'as eu des retours pas très chouettes
après ça je pense que toute personne qui poste quelque chose sur les réseaux sociaux aujourd'hui se prend après c'est normal hein, comme je dis c'est comme si tu vas dans la rue et que tu dis écoutez moi j'ai un truc à vous raconter il y a forcément des gens qui vont dire ouais. Mais ferme là et donc voilà donc oui sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens bêtes mais voilà depuis ma règle depuis ma vidéo sur les règles et les tampax, j'ai compris. Et après, moi, ça me fait plus rire, en fait. Je me dis, ah oui, donc on en est là. Ok, très bien.
Ouais. Après, c'est aussi un style d'humour que tu as. Tu appelles ça trash médidactique.
Oui.
D'office, c'est un peu clivant.
Ce que j'allais dire.
Ça fait réagir,
d'office. Oui, après, je sais que j'ai un type d'humour. C'est pas lisse, c'est pas propre. Après, je pense que peu importe l'humour que tu fais, il y a toujours des gens qui vont critiquer en disant soit c'est nul, soit attaquer la personne, soit machin, enfin voilà. Mais dans mon cas, moi, en plus, j'attaque des sujets, je fais une chronique sur Zemmour.
Qui est très bien d'ailleurs, je la conseille, moi, c'est ma préférée.
C'est vrai ?
J'ai adoré, il y a vraiment plusieurs trucs. La fille avec les yeux verts s'est retrouvée sur son.
C'est un site de rencontre pour complotistes. Voilà. Je savais pas que ça existait, bref. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Du coup, là, j'ai eu que les gros rascards.
Ouais.
Ouais, c'était. Mais après, c'est cool, parce que du coup, c'est ce que je dis, si je fais réagir ces gens-là, là, mon propos a d'autant plus d'intérêt. Parce que parler à des gens qui sont d'accord avec toi, oui, c'est bien parce qu'on peut pousser la réflexion un peu plus loin, mais c'est justement des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est là que ça devient intéressant d'avoir ce genre d'humour et d'un peu aller titiller ces gens-là. Donc voilà. Donc moi, je prends beaucoup de recul par rapport aux réactions et ça me fait plutôt rire.
Mais c'est là que c'est intéressant aussi, parce que si t'as des réactions, ça montre que ça existe. Parce que moi, je me dis qu'on ne soit pas d'accord avec ce que tu dis, par exemple, dans la chronique sur Zemmour. Je me dis, mais c'est pas possible de ne pas être d'accord. Mais en fait, si.
Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont... Ben, on le voit avec la montée du populisme, de l'extrême droite. Enfin, voilà, il y a toujours des misogynes, il y a des racistes, il y a des homophobes. C'est juste que je pense que parfois, il y a en fonction des époques, le racisme, je pense, il y a 30 ans. Enfin, tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, on n'osait pas trop. Mais ces gens-là n'ont pas disparu. Enfin, tu vois, les fachos étaient toujours là. Ils ont eu des enfants. A priori, ils les ont élevés dans la gloire du fascisme. Donc voilà, mais c'est juste qu'on n'osait pas trop le dire, et voilà, et petit à petit, ça se décomplexe, et donc oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre d'opinion, mais du coup, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, moi, je trouve que c'est d'autant plus pertinent de le faire devant eux.
T'as jamais eu peur, parce que c'est des gens qui peuvent être parfois agressifs, ou tu te dis, c'est sur les réseaux...
En fait, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, les gens sont très courageux derrière leur clavier, mais dans la vie physique et réelle, il n'y a jamais personne. Alors, ce qui peut se passer sur scène, c'est que des gens qui sont peut-être racistes, homophobes, misogynes, et qui du coup n'adhèrent pas propos, mais le pire, c'est, voilà, il ne rit pas, point bas. Une fois, un monsieur, parce que je fais des vannes sur le pape François et qu'il m'a dit non, mais ce monsieur dit des choses quand même très intéressantes. Mais c'était même pas hostile, c'était juste aller écouter ce qu'il dit, il dit pas que des bêtises. Et une fois, je jouais en Bretagne. J'ai toute une partie sur la manif pour tous, etc. Parce qu'en France, c'est très très ancré. Le mariage pour tous, c'est vraiment très touchy. Et j'ai tout un sketch là-dessus. Et j'ai senti que, voilà, en fait, apparemment, c'était une ville où l'extrême droite et la manif pour tous avaient bien performé. Et c'est très cool parce qu'après, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il était, je pense, adjoint à la mairie. Il m'a dit, voilà, j'ai fait la manif pour tous. Plusieurs fois. Et il dit, sauf qu'une fois, j'ai dû faire officier un mariage entre deux hommes. Et il dit, ça a été le plus beau mariage que j'ai jamais fait. Et j'ai réalisé que j'étais un con. Et il dit, du coup, votre sketch m'a beaucoup touchée. C'est, je pense, la seule fois où, a priori, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi est venu me parler. Et encore, à une époque, il n'était pas d'accord avec moi. Et donc, ouais, les haters s'arrêtent sur les réseaux et ça sort pas beaucoup de chez soi. Donc, pas encore d'attaque physique. Je me le souhaite.
Je ne te le souhaite pas non plus.
Mais je pense qu'il n'y a pas d'humoriste qui se soit fait attaquer physiquement, à part peut-être interpellé dans la salle comme Donnell Jacksman ou des choses comme ça.
Pas que je sache.
Mais les gens ne sont pas très courageux. Donc voilà. Donc sur les réseaux sociaux, oui, il y a des insultes, il y a des gens chelous.
Mais donc n'attaquez pas Farah. De toute façon, elle mesure 2 mètres, elle fait du MMA et elle est très dangereuse.
Et tonton marocain surtout.
Il y a des tontons marocains.
Ça peut vraiment faire peur. Les 2 mètres, on n'y est pas.
Non, c'est vrai. C'est pas. Voilà. Ce qui me définit le plus.
C'est pas la première chose à laquelle on pense. Ce qu'on peut aussi faire en ce moment, c'est regarder tes vidéos, attendant de te voir sur scène.
Bien sûr.
Tu en as parlé, tu en as vu une vidéo qui s'appelle Tampax et féminisme. En tout cas, c'est ton passage à Ignetaloche qui a 2,8 millions de vues.
Oui, et encore, j'ai refait ce sketch sur le Teva Comedy Show en France. Et là, la vidéo, donc le même sketch, on est à presque 5 millions.
Okay.
Donc, et un autre sketch sur la grossophobie, on a 1 million. Mais du coup, c'est pas sur ma vache, c'est sur Teva. Mais donc oui, apparemment, ça fait parler les gens. Et c'est encore vu, et 2 ans après, c'est encore d'actualité. Donc c'est...
Et ça fait quoi de se dire qu'il y a autant de millions de personnes qui ont vu ton sketch ?
Bah en fait, on réalise pas. Parce qu'à un moment, ça devient des chiffres. Parce que je sais que du coup, on s'habitue à ce genre de chiffres. Et je sais que quand je pose des trucs, je me dis, donc, j'ai que ça comme vue ou que ça comme like. Enfin, les gens font, enfin, t'es quand même à 100 000. Et je fais, ah, c'est pas. Mais donc on s'habitue, mais on réalise pas. Je sais qu'au tout début, quand la vidéo a commencé à performer et que j'étais arrivée à 600 000 en très peu de temps, je me suis dit, mais ça fait autant de stades de foot. Et là, j'ai fait, waouh. Mais il y a un moment, on mesure plus, mais c'est vrai que c'est beaucoup de gens. Après, une vue, enfin, je trouve que ça veut tout et rien dire, parce qu'une vue, ça veut pas dire qu'ils ont vu jusqu'au bout. Une vue, c'est pas quelqu'un qui t'a aimé, hein. Une vue, c'est juste quelqu'un qui a vu. Donc, mais aujourd'hui, ça fait bien. Tu vois, c'est un gage de qualité. C'est comme ça qu'on définit le talent aujourd'hui. C'est le nombre de vues et de likes.
Oui, c'est après, si tu vas voir les vidéos les plus vues dans le monde, c'est pas les vidéos les plus qualitatives, malheureusement.
Mais ça m'a permis effectivement de remplir mes salles et de voir une certaine visibilité.
D'ailleurs, quand est-ce que tu remontes sur scène pour jouer ton spectacle ?
Plein de dates beaucoup de dates qui ont été reportées. Mais la toute première date où je vais jouer mon spectacle, a priori, c'est à Gembloux. Le 26 septembre ou le 27 septembre, je crois. Parce que je sais que je recommence la scène mi-août, mais je fais des 30-30 au Kings of Comedy Club où j'invite à chaque fois des potes humoristes. Et le but, c'est de faire que des nouvelles vannes. Mais donc voilà, donc en septembre, je reprends le spectacle et la première date, c'est Gembloux. Paris, ce sera en octobre, mais on n'a pas encore on est encore en train de discuter. Donc voilà, donc ce sera septembre-octobre.
À la nouvelle scène.
À la nouvelle scène, la plus belle scène de, en toute objectivité.
Avec cette vidéo dont on parlait, que tu as dit que tu avais eu pas mal de remarques misogynes dans les commentaires et tout ça, mais ça, j'allais dire, on s'y attendait malheureusement.
Mais
tu as dit aussi que tu avais eu des remarques misogynes dans le milieu professionnel aussi.
Alors c'était au tout début, parce que entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, donc en octobre, ça va faire 5 ans que j'ai fait ma toute première scène. Et je pense qu'il y a 5 ans, les filles, il commençait à y avoir ce phénomène dans l'humour où il y avait de plus en plus de filles. On était encore dans la phase où les filles arrivaient. Il y avait quelques-unes qui... c'était vraiment juste au moment où Blanche Gardin commençait à exploser. Et donc du coup, on sentait qu'il y avait encore quelques personnes. Mais par contre, la misogynie, c'est pas la majorité. Il faut vraiment pas réduire. J'ai eu une ou deux ou trois personnes qui m'ont dit des choses, voilà, mais généralement je reprends ça sur scène et je réponds sur scène en tout anonymat. Voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais la misogynie, je la ressentais plus dans le public. Et ce qui est très drôle, c'est que ça venait autant des hommes que des femmes. Voire parfois plus des femmes, parce que on en discutait souvent avec Émilie quand on faisait des 30-30 à deux. On sent que quand maintenant beaucoup moins, on sentait que quand tu montais sur scène, les filles ou les hommes te regardaient genre, ah, c'est une fille, donc déjà elle est moins drôle, elle sera forcément moins drôle. Et il y a un peu ce truc de vas-y, prouve-nous. Donc bon, je trouve que ça commence à changer, mais une fille doit tout déchirer pour qu'on dise, ah oui, elle est super drôle. Enfin, on doit faire plus, quoi, un peu plus, être plus et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une génération de filles où ça rentre dedans. Mais je pense juste, c'était un petit coup de pied dans la fourmilière pour un peu bousculer ça. Mais heureusement, en 5 ans, mon Dieu, on est beaucoup, beaucoup de filles, de plus en plus. Et un jour, j'espère qu'on arrivera à ne plus faire la distinction entre le fait qu'on soit un humoriste fille ou un humoriste garçon, ou même un humoriste transgenre, finalement. Parce qu'on s'en fout, en fait, qu'on a un vagin.
Ça ne change pas grand-chose au niveau de la vanne. Hein.
Non, mais par contre, les gens sont plus rudes quand c'est une femme, parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, la manière dont c'est dit. Dès que tu parles de sexualité, même si en soi les mots que tu utilises ne sont pas vulgaires ou la façon dont tu parles n'est pas vulgaire, ben les gens, c'est forcément, ils confondent grivois et vulgarité, tu sais. Et voilà, et les hommes, tu vois, ça fait 20 ans qu'ils nous racontent que leur belle-mère est chiante, que les blondes sont complètement cons. Mais c'est pas grave, ils peuvent continuer à le faire. Par contre, une fille, on a le droit à un thème et ça doit être très joli, on doit être maquillé, on doit, tu vois. Voilà. Mais ça commence à changer. Mais c'est vrai que, voilà, tant qu'on posera cette fameuse question, l'humour au féminin, quel est votre humoriste femme préférée, on dira, bah, c'est qu'il y a encore du boulot, les gars, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ou le classique avant de monter sur scène, parce qu'il n'y a qu'une fille, donc c'est la touche charme de la soirée, on dit elle est belle, elle est gentille, et c'est. Mais tu n'as rien dit sur son...
Sur sa personne, en fait.
Mais son style, son...
Mais je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a une génération de filles très trash. Parce que justement, elles n'ont pas envie qu'on dise « elle est toute choupie, elle est machin ». Mais c'est bien parce que maintenant, il y a même des plateaux où on n'est que des filles. Alors après, par contre, je déteste le principe de « on va soirée exclusivement féminine avec que des humoristes femmes ». Ah, j'ai l'impression d'être trop zoo, comme ça, tu sais. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'aborder cette question du genre. Je pense que là, on aura atteint pour moi le... Il n'y aura plus de problème quand la question du genre ne sera plus une question. C'est beau, hein, ça faisait très marketing. Hein.
Mais je suis d'accord avec toi et c'est... moi, je trouve ça dingue. Les commentaires les plus sexistes que j'ai entendus de ma vie, je pense que c'est des femmes qui les ont dit.
Les femmes sont extrêmement violentes entre elles. Hein. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. La misogynie, on peut être une femme misogyne, comme on peut être arabe et raciste, hein, tu sais, ça n'empêche pas. Et même homo et homophobe. Donc voilà, donc oui, c'est vrai qu'en tant que femme humoriste, ou par exemple, je sais que Laura Lone ou Cécile Djunga qui expliquaient, comme c'est quand même des humoristes qui sont très très belles, enfin tu vois, elles sont très jolies, bah qu'en plus il y a une animosité sur le fait qu'elles sont belles, donc du coup elles n'ont pas le droit d'être trash, parce que du coup forcément les filles, hein, c'est quoi cette pétasse, c'est quoi cette... Bah voilà, on va pas se mentir, le monde n'est pas un monde de bisounours et les femmes peuvent être très très cruelles entre elles, donc oui, mais après c'est ça qui est intéressant, c'est d'un peu bousculer tout ça et déranger tout ça, même s'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi, ça les fait chier d'avoir une fille qui sur scène leur rabâche que ceci, mais quand même beaucoup d'hommes humoristes qui sont très très bien.
Bah oui, heureusement.
Et qui sont très contents qu'il y ait de plus en plus de filles et qui même poussent. Voilà, amener plein de filles sur scène et comme Alex Vizorek, Cody, Guillermo, enfin voilà, tous ces gens-là, je pense, sont contents de voir des filles. Donc,
ouais, moi, je pense que plus il y a de voix en humour, plus on a en fait des visions différentes. Encourager les garçons à le faire, les filles, les homosexuels, tout le monde, en fait, comme ça, on a des visions différentes, des façons de penser, des réflexions. J'aurais limite envie d'entendre tout le monde
sur un plateau d'humour.
Bah, tout le monde n'est pas drôle. Tout le monde a une histoire à raconter. Et je pense que pendant 50 ans, l'humour restait quand même très très formaté. Quoi. On avait d'un côté les hommes, alors soit ils étaient, c'était de l'humour politisé, donc voilà. Mais bon, les femmes, c'était souvent parler de leurs enfants, parler de leur mari. Ou... Enfin, tu vois, c'était quand même très très défini. Et en même temps, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Donc forcément, plus il y a de monde, plus il y a de diversité et de pluralité. Et je pense que jusqu'à il y a 10 ans, l'humour, c'était vraiment un tout tout petit cercle de gens qui raflaient tout et que bah, forcément qui limitaient le discours ou la diversité. Ça c'est très Michael Jackson, United, Color of Benetton. Oui.
Mais je pense que ça évolue dans un bon sens et ça c'est chouette. On parlait de tes vidéos, il y a aussi une vidéo que tu as fait avec Ino JP et Emily Krohn où vous parlez de plan A3. Ça s'est venu d'où cette idée de vidéo? J'ai vu que c'était en collaboration avec
AIDS France. En fait, j'ai été contactée en mai, je pense, par donc l'association AIDS, donc de lutte contre le VIH, mais France. Et en fait, ils voulaient, c'était le 4 juillet, c'était ils voulaient faire la fête de l'amour. Et c'était toute une journée dédiée à la fête de l'amour pour justement sensibiliser à la lutte contre le VIH. Et donc, en fait, ils ont toute la journée, ils ont contacté des artistes, mais toutes sortes d'artistes, donc des humoristes, des musiciens, des chanteurs, des acteurs. Et le but, c'était vraiment d'inonder les réseaux sociaux de vidéos sur le thème de l'amour. Alors, ça pouvait être le thème de l'amour, ça pouvait être la sexualité, ça pouvait être sensibilisation à ce sujet-là. Et je pense qu'ils ont fait un prime avec Laurent Lafitte qui animait le prime. Il y avait des interviews Combini, c'était relayé sur les Inrocks, enfin c'était vraiment une grosse campagne. Et donc j'ai été contactée, ils m'ont dit voilà, ce serait cool que tu fasses une vidéo, ta carte blanche. Il dit par exemple Tristan Lopin, bah, il va faire un face cam, enfin voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Et moi je suis pas une fan du face cam chez moi, enfin déjà j'ai pas le matériel et je trouve que voilà, c'est un modèle qui a été beaucoup usé. Et alors me demande pas, c'est freudien, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais ce serait drôle d'imaginer un plan A3, mais tu sais qu'il n'aboutit pas, le plan A3 foireux. Je n'ai jamais fait de plan A3. Et du coup, souvent, je me dis, mais comment ça se passe? Et je sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à Emily, parce que c'est ma super pote, et Ino JP. Et donc voilà, donc je les ai appelés tous les deux. J'ai dit, mais voilà, j'ai un projet, est-ce qu'on peut s'appeler? Et Emily a lancé, mais vraiment comme une blague, en disant, et quoi, c'est pour un plan A3? Je dis, mais justement, tu fais bien de le dire. Et alors là, je pense qu'Ino JP a bugué pendant 10 bonnes minutes. Tu sais, on a l'impression que l'image était bleue. On fait Ino. Mais non, mais je suis encore sur le plan A3. Et donc voilà, ils ont été adorables. On a fait, en 3 heures, on a écrit la petite vidéo. Et puis on a passé, semaine après, on a tourné ça dans ma chambre, ici. Et Ino JP en mini kimono qui lui arrive sous les fesses, c'est un moment extraordinaire. Donc on a énormément ri. Et donc voilà, donc j'étais très contente, je me suis beaucoup amusée, c'était très cool, et puis en plus c'était pour la bonne cause, donc c'était top. Donc faites l'amour, amusez-vous de toutes les manières, mais mettez des capotes. Ouais. Ou si pas des capotes, faites des thèses.
Vous pouvez aller sur le site faites l'amour, donc F-E-T-E l'amour.fr pour les dons, on en profite.
Vous pouvez faire un don, exactement.
Est-ce que c'est important pour toi de profiter de la tribune que tu as pour véhiculer ce genre de choses, pour essayer de bouger les choses, ou ça vient naturellement chez toi de vouloir le faire?
Je me dis pas, je vais être un profondeur de l'humanité, j'accuse, tu vois. C'est plutôt, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et du coup, pour moi, c'est naturel de parler. Mais je m'en suis rendu compte avec la radio quand j'ai commencé l'humour. Pour moi, c'était pas évident, moi. Avant de faire l'humour, j'avoue que j'étais quand même sur l'humour très mainstream. Donc j'étais fan de. J'aime beaucoup Florence Foresti, voilà, ces gens-là. Et c'est en commençant à faire du stand-up que j'ai vraiment commencé à regarder beaucoup de choses. Et donc je pensais pas du tout que j'allais tomber dans un humour un peu engagé. Mais en fait, je crois que ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Sauf que dans la vie, quand j'en parle, je rigole beaucoup moins, j'ai tendance à vite m'emballer. Donc voilà, donc pour moi, c'est très très naturel d'en parler. Et après, j'ai pas envie d'être donneuse de leçons, c'est juste que voilà, moi ça me touche, j'ai envie d'en parler, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, et quand on me contacte comme ça pour une belle action, que ce soit les solidarités avec Marca pour infirmier de rue ou médecin du monde, ou AIDS pour la lutte contre le VIH, bah c'est oui, c'est naturel, c'est comme ça, et je me dis bah oui, il faut le faire, c'est drôle. Après, je pense que tout le monde, à sa manière, doit contribuer en tant que citoyen, c'est pas en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste, c'est juste en tant que citoyen. Il faut, je pense, participer à la vie de la collectivité et avoir une certaine forme d'engagement, je pense. Pour moi, c'est quand on vit en société, il faut être un minimum engagé, mais c'est très personnel. Donc voilà, donc c'est pas du tout une question d'être humoriste ou artiste, c'est juste quand on est citoyen, il faut essayer d'un peu faire changer les choses.
C'est le message pour changer les choses de Farah.
Oh, c'est beau, dit comme ça, ça fait un peu Instagrammeuse, mais oui, ou, faut faire bouger les choses.
Ou politicienne, ça pourrait marcher.
C'est vrai, je pense que j'aurais pu faire
voter Farah pour que les choses changent.
J'aurais pu faire de la politique, mais un peu trop de corruption à mon goût.
Mais moi, de toute façon, je trouve que l'humour, pour moi, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer les choses, juste pour faire réfléchir les gens. Et je sais pas, moi, c'est mon truc préféré pour faire ça. J'adore les gens qui le font. Mais parce que je me sens pas obligé, c'est pas un donneur de leçons, c'est juste. Tu amènes une idée, l'idée fleurit dans ta tête après, et t'as passé un bon moment en même temps. Donc...
Pour moi, tu sèmes une petite graine. Après, comme je dis souvent, les gens sont pas obligés d'être... Heureusement que les gens sont pas d'accord avec moi, sinon ce serait très chiant en fait. Mais au moins, voilà, c'est une autre vision des choses. Voilà mon idée. Après, vous adhérez, vous adhérez pas. Mais comme tu dis, tu sèmes juste une petite graine. Parce que je sais que souvent, des gens viennent... Ah, mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Ou j'avais pas pensé à ça. Ou, et que du coup, et même si la personne ne change pas d'avis, au moins, elle se sera dit... Le point de vue est intéressant. Et moi, c'est ça que j'aime en humour. Parce que quand tu as un débat comme ça, si toi et moi, on commence à parler de sujets et on n'est pas forcément d'accord, ça peut vite, tu vois, les, chacun se braque dans ses... Tu vois, on campe sur ses positions et on se braque et machin. Mais à partir du moment où t'as fait rire quelqu'un, il y a une sorte de d'affect comme ça. Les gens, quand tu les fais rire, tout d'un coup, ils ont une sorte d'empathie, ils t'aiment bien parce que tu les as fait rire et que donc, du coup, bah, ils sont prêts à entendre certaines choses qu'ils n'entendraient pas de façon assez plus froide et plus frontale, quoi. Donc oui, l'humour, pour moi, c'est une excellente manière, comme la musique, c'est une très très bonne manière de faire passer certains discours.
Tant qu'on est encore en train de parler de ton actualité, ça va bientôt arriver avec Florent Lausson, Gaëtan Delferrière, Émilie Krohn, et produit par le What the Fun et InnoJP. Qui cette fois-ci ne portera peut-être pas de kimono, vous le saurez en regardant.
Malheureusement. Ça lui va très très bien, mais non.
Ah zut, moi s'il n'y a pas de kimono, je ne sais pas si je regarderai.
Il faut regarder, c'est extraordinaire.
Vous allez sortir une web-série qui s'appelle Les Anonymes, qui est produite par le What the Fun.
Et la RTB. Quand même, le côté un peu institutionnel, public, ça fait sérieux, quoi, tu vois. Mais oui, avec le What the Fun. Après, on va sortir, comme je dis toujours, Ino et moi, on a vraiment un rôle extrêmement modeste. Tout le boulot revient vraiment au What the Fun, donc Raph Rudy, et surtout Émilie Krohn, Gaëtan Delferrière et Florent Lausson. Le fait que ça sorte maintenant, ça paraît un peu surréaliste, parce que je me souviens, il y a 2 ans, quand Émilie commençait à me dire, bah voilà, avec Gaëtan et Florent, on va commencer à écrire. Qu'est-ce que tu penses du concept? Donc, j'ai eu toute la phase d'écriture, puis toute la phase de projet voilà, pour la validation avec la RTBF. Le tournage, c'était il y a 1 an. Et là, ils étaient en post-prod pour faire le montage et tout. Ça fait 2 ans qu'ils font un boulot de dingue. Donc, InnoJP et moi, on était juste là. Ils nous ont donné les textes et on a joué. Mais je suis très fière de faire partie de ce projet. Mais vraiment, chapeau au What the Fun et à ce petit trio que sont Gaëtan, Émilie et Florence qui font un boulot de dingue depuis 2 ans. Et donc, on espère que les gens vont aimer parce qu'on s'est bien amusé à le faire. C'est très, très cool. C'est un peu fou. C'est très belge, je trouve. Enfin, c'est complètement absurde. C'est humour noir absurde. Donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare aux haters. Donc, qu'est-ce que c'était drôle à faire. Et puis, avec les guests et tout, qui étaient incroyables. Alexandre Cominec, Laurence Bibot, Cody, Pablo Andrés. Tous les gens jouaient le jeu à fond. Alors que c'était complètement farfelu, honnêtement. Quand vous allez voir Laurence Bibot, vous allez vous dire, et elle a accepté de faire ça. C'est vraiment des salopards. Mais en septembre, normalement.
Il me semble que j'ai parlé avec le What the Fun ici. Il me semble qu'ils ont dit octobre. Ouais. En tout cas, septembre-octobre, vous devrez avoir une web série qui s'appelle Les Anonymes, de 20 épisodes de 2-3 minutes, je crois.
20 épisodes, ouais, de 2-3 minutes. C'est un format très très court. Le concept, c'est très simple. On reprend le concept des réunions d'alcooliques anonymes. Sauf que on change alcoolique avec plein d'autres, on va dire, pathologies. Alors, ça peut être des misogynes anonymes ou connards anonymes, pervers narcissiques. Et après, ça va dans des trucs très, très délirants comme les gens qui adorent faire des surprises anonymes, les dictateurs anonymes, plein de choses. Et donc voilà. Et donc, c'est sous format de réunion. Et InnoJP joue le rôle de médiateur.
Plus j'en entends parler de cette série, plus j'ai envie de la voir. Mais vraiment, je sais, l'activation, l'enthousiasme que vous partagez, j'ai vraiment envie de voir ça. Bon, après, si vous ne m'entendez plus jamais en parler, que vous ne voyez plus de publication, c'est... Voilà.
Après, comme dit Gaëtan, les gens adhèrent ou pas, au moins, je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. C'est un premier gros projet. Donc voilà. Donc, je pense que tant qu'on y a mis... Bon, après, c'est cool. Si ça marche pas, pas très, très gay. Donc, du coup, Régis, on compte sur toi. Même si t'aimes pas, t'as pas le choix.
Si j'aime pas, je
Est-ce que c'est, toi, quelque chose que tu veux développer, le côté comédienne, en plus du stand-up ?
Tu sais que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que je vais pas te mentir, depuis le début de cette folle aventure du stand-up, je gère pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, à la base, quand j'ai commencé le stand-up, c'était vraiment... Enfin, je voulais même pas, en fait. J'ai fait la fameuse Académie du King's. Émilie pourra te le confirmer. Moi, j'étais en disant, non, mais moi, je veux juste voir voilà, comment ça fonctionne, machin, le mécanisme, tout ça. Et puis, ils m'ont dit, non, mais tu vas monter sur scène à la fin des deux semaines, donc tu te tais.
Pas ma faute, j'ai du talent.
Non, non, même pas. Non, non, parce que moi, c'était vraiment genre, un jour, je serai vieille incontinente avec des chats et il faut lui créer des souvenirs. Et j'avais 30 ans et je me suis dit, ça approche à grands pas. Donc, vas-y, fais-le. Au moins, t'auras essayé. Il n'y aura pas de regret de te dire, mais peut-être que, et si je l'avais fait, et au moins si j'essaye, bah soit je suis mauvaise et je le sais, et next on passe à autre chose et il n'y a pas de regret. Et si je suis bonne, bah au moins on tente l'aventure et au moins j'aurais tenté le truc. Donc voilà, j'ai mis du temps à me dire, bah oui, en fait t'es humoriste, bah oui, en fait t'as envie de faire ça de ta vie. Et à la question, est-ce que j'ai envie d'être comédienne ou pas, moi en fait, tant que je m'amuse. Pour moi, peu importe le support, tant que je fais de l'humour et que je peux faire de l'humour, que ce soit radio, télé, scène, web-série, film, je m'en fous. Tant que je m'amuse et que les gens estiment que bah, je fais pas ça trop mal, alors c'est bon, j'y vais. Donc voilà, mais j'ai pas de plan de carrière, même si je vise un peu les Oscars et Hollywood. Non, non, voilà, j'ai pas de plan de carrière de. Donc je passe pas de casting, je fais pas. Mais voilà, si j'ai la chance de le faire, je le ferai. Et si je peux m'amuser, ben, je m'amuserai.
Ouais, chouette. Une belle vision de la vie, je trouve.
Oh,
de... Mais si, mais tu vois les choses arriver, carpe diem, c'est magnifique. Ah non, c'est chouette, vraiment. Mais maintenant qu'on en sait plus sur ton actualité, moi, dans le podcast, ce que j'aime bien, c'est revenir en arrière. On va revenir dans l'enfance de la petite Farah.
Oh, l'enfance, carrément.
L'enfance, carrément.
Oh là là, on est quoi? On est sur le 15e siècle, hein. Le Moyen-Âge, au moins.
J'ai envie de savoir, quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà une petite comique ou pas?
J'aimerais te dire non, que j'étais une enfant très inspirée, qui aimait si, j'adorais. En fait, depuis toute petite, j'adore rire. Ouais, j'ai toujours été un peu la clown de service, mais je me voyais pas humoriste par contre.
Okay.
C'est-à-dire que j'adorais ce sentiment de faire rire les autres. Donc à l'école, ouais, j'étais. Oui, oui, voilà, j'ai toujours aimé ça. Mais après, je viens d'une famille où ma maman, je pense, est la plus grande snipeuse du monde. Elle fait des punchlines, parfois je suis maman. Donc voilà, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre et on adore rire. Donc moi, pour moi, déjà, depuis tout toujours, j'ai le souvenir enfant, adolescent, jeune adulte, une journée sans rire, c'était une journée perdue. Donc si j'avais pas un fou rire par jour, j'estimais que j'avais gâché ma journée. Et mais crois-moi que j'en ai eu des fous rires, parce que j'adore ça en fait. Pour moi, rire, il n'y a rien de plus jouissif, et surtout réussir à faire rire les autres. C'est alors, mais après, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'était mes potes et ma famille ou mes collègues après quand j'ai travaillé. Donc voilà, ça restait, parce que c'est une chose de faire rire ton entourage, c'en est une autre de faire rire des inconnus. Donc voilà, donc j'ai toujours aimé faire rire, mais j'ai jamais eu, je sais qu'il y a des gens qui disent que depuis tout petit, voilà, mais et je trouve ça génial, mais moi, j'avais pas du tout cette illumination, mais par contre, j'adorais imiter Élie Kakou quand j'étais vraiment toute petite, ne jugez pas. J'adorais imiter Élie Kakou, Danny Boone, voilà, parce que j'étais petite, et voilà, et, je me souviens que je le faisais devant mes parents, ça les faisait rire. Après, je faisais aussi Maria Carré en playback, tu vois, des petits trucs comme ça. Donc, j'aimais beaucoup déjà...
Te mettre en avant.
Pas me mettre en avant spécialement, parce que je suis pas quelqu'un... Dans la vie, je vais pas être celle que tu vas voir le plus à une soirée. Je vais pas être celle qui parle super fort ou qui va... Je suis plutôt assez discrète et très timide. Je suis très dans l'observation. Donc, petite, je pouvais jouer des heures toute seule. Tu pouvais pas m'entendre. Mais si je pouvais lancer la petite blague... Et dans le cercle familial où là il n'y avait pas de timidité, ben là du coup je refaisais des sketchs et tout. Donc le rire, ça a toujours fait partie de ma vie. J'envisageais pas du tout d'en faire une profession.
Et est-ce que tu consommais beaucoup d'humour? Donc tu l'as dit, tu regardais Élie Kakou, Florence Foresti, Danny Boone. Est-ce que c'était beaucoup ou un peu comme ça de temps en temps?
Ben, en fait, c'est ma maman qui du coup aimait beaucoup l'humour, donc elle adorait Guy Bedos. Surtout, okay. Elle était fan de Guy Bedos. J'ai souvenir petite de regarder les spectacles de Guy Bedos, Pierre Palmade, Muriel Robin, Danny Boone, Élie Kakou. Bon, Danny Boone, je pense c'est parce qu'elle n'avait pas trop le choix, parce que j'avais sûrement vu le sketch à la télé et que j'aimais bien. Et donc, du coup. Mais même des trucs comme Mr. Bean ou les Monty Python ou des comédies. On regardait beaucoup de choses drôles, que ce soit des comédies ou des humoristes. Mais après, bon, quand j'étais ado, il y a eu la découverte de Florence Foresti. Donc ça a toujours fait partie de mon univers. Parce que ma maman adore rire et voilà. Et donc, tu vois, là, je suis en train de me dire, c'était quoi la question initiale? Petit à petit. Oui, donc voilà. Je consommais, mais je dois dire que je consommais pas de stand-up. Donc, ce n'est qu'en montant sur scène que j'ai commencé à découvrir les humoristes américains. Ça, par contre, j'avais pas du tout cette culture-là avant. Ça restait de l'humour très, très franco-belge et assez mainstream.
Le stand-up, ça arrivait quand même un peu après.
Oui, voilà. Bah, pour moi, le seul qui faisait du stand-up, c'était Guy Bedos. Donc, ouais. Guy Bedos en faisait déjà, mais sinon, c'était très sketch. Mais moi, ça me fait. C'est con, mais. Pierre Palmade me faisait beaucoup rire quand j'étais. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on fait du sketch, maintenant c'est la mode du stand-up, mais c'est pas parce qu'on fait du sketch qu'on est mauvais, loin de là. Mais donc voilà, donc ça a toujours été, par exemple, mon papa c'est un grand fan de Raymond DeVos. Bon, après, moi je fais pas du tout jeu de mots, mais donc voilà, donc l'humour, l'humour, ça a toujours fait partie de l'ADN de la famille.
Tu avais déjà un panel de styles différents, d'humoristes différents.
Oui.
Cool. Est-ce que, durant l'adolescence, tu as fait tout ce qui est théâtre, improvisation ou...
Jamais. Parce que j'étais, comme je te dis, j'étais très timide. Ouais. Donc du coup, moi, si vraiment je m'étais écoutée, j'aurais fait 8000 choses, des cours de théâtre, des cours de peinture, du piano, de la danse, toutes sortes de danses. Et du coup, à vouloir faire trop de choses, je faisais rien. Parce que j'étais timide, parce que j'avais peur du regard des autres et machin. Et en fait, c'est ça, à 30 ans, je me suis rendu compte que déjà à 30 ans, j'avais des regrets en me disant « Mais pourquoi à 15 ans, t'étais si gênée, si complexée? Pourquoi est-ce que t'osais pas faire tout ça? Franchement, il n'y a pas mort d'homme. » Et en fait, c'est ça, je me suis dit « Si déjà à mon âge, je regrette des choses de quand j'avais 15 ou 20 ans, mais du coup, vas-y, quoi. » Et donc voilà, donc j'ai jamais rien fait. J'ai fait mes études, tu vois, un truc très, très propre, je bossais dans la banque, voilà. J'ai jamais osé révéler ce côté artistique, même si j'aimais beaucoup le dessin, mais ça restait un truc très individuel, voire individualiste. Et voilà, et puis c'est plus les gens autour de moi, mes potes à l'uni, faux boulot, qui disaient « Ah, oh, la façon dont tu racontes tes histoires, on te verrait bien faire un one-woman show parce que la façon dont tu le dis. » Et puis au début, tu dis « Mais c'est n'importe quoi. » Parce que je trouvais ça fou, moi, quand je voyais le Jamel Comedy Club, je trouvais ça fou de faire rire des inconnus. Et donc je me disais « Jamais. » Et puis voilà, ils ont semé une petite graine qui a mis du temps à germer quand même. Je pense qu'on est quand même sur un bon 7-8 ans avant de se dire « Allez, on y va. » Parce que du coup, comme je suis très timide et très, très... Voilà, un peu... Et donc voilà, et puis une fois que je me suis lancée, j'ai dit « Oh, révélation !» Mais j'ai commencé, par contre, quand j'ai commencé le stand-up il y a 5 ans, j'ai fait pendant 2 ans de l'impro. Parce que c'était une collègue qui m'avait dit « Écoute, je commence de l'impro, ça te dit ?» Une collègue qui est devenue une amie depuis, parce que je ne bosse plus à cet endroit dit. Et l'impro, ça m'a beaucoup aidée, par contre. Je sais pas si tu fais de l'impro.
J'ai fait de l'impro, j'en ai fait beaucoup.
Et donc, disons que ça a permis d'enlever beaucoup de barrières. Et l'impro et le stand-up, je pense... Enfin, en tout cas, maintenant, après 5 ans, je me dis... ça m'a changé, mais positivement. C'est-à-dire que j'assume ce que je suis, j'assume ce que je dis. Avant, tu vois, moi, si tu me regardais plus de 15 secondes dans les yeux, tu vois, ça me stressait, j'étais fort, le jugement des autres et tout. Maintenant, je m'en fous, quoi. Tu vois, une fois que t'as vécu des bides, franchement, la vie des gens... Enfin, tu vois, t'assumes beaucoup plus dans la vie et l'impro, on t'apprend, il n'y a pas de mauvaise idée. Il faut savoir te vendre, il faut être à l'écoute de tout. Et donc, du coup, ça a vraiment, à 30 ans, comme ça... Bah, après, c'est bien, ça arrive pas si tard que ça. À 30 ans, plutôt très timide et qui n'ose pas, comme ça, aller dans une classe avec plein d'inconnus.
Et quand t'as fait de l'impro, t'as fait ça...
J'ai fait la Ligue d'impro amateur, et donc c'était la Very Bad Troupe, et qui continue d'ailleurs, mais à un moment, j'avais entre le boulot et la scène, j'arrivais plus à faire les deux, mais c'était génial. Et d'ailleurs, je regrette un peu, parce que ça n'a rien à voir avec le stand-up, mais ça apporte beaucoup de choses sur le jeu, sur justement apprendre à jouer, apprendre à vendre une idée, à s'assumer sur scène. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais j'ai plus vraiment le temps. Mais c'était très cool comme expérience.
Et t'étais quel type d'improvisatrice? Dans le non-verbal, dans la construction, dans les gags ou...
Moi forcément j'étais dans la fille, oui, ouais, il fallait que je les fasse rire. Alors du coup ça dépend des coachs, tu vois, il y a des coachs, ils adorent, tu vois, faire... construire des scénettes où, ça, où tu fais rire et tout. Après, il y en a, tu sens, qui sont plus cinéma d'auteur. Et du coup, c'était intéressant parce qu'ils me disaient « Alors, maintenant, tu vas arrêter de nous faire la Farah qui veut faire rire tout le monde et tu vas essayer d'être dans l'émotion et tout. » Et c'est ça qui est dur. Parce qu'en fait, quand on est humoriste, c'est joli parce qu'on se cache comme ça derrière un grand mur où on fait rire les autres et tant que les gens rient, ils ne nous posent pas trop de questions et on ne doit pas trop... tu vois, se dévoiler. Mais du coup, quand tu dois jouer dans l'émotion, dans l'impro, c'est vrai que c'est un peu... Mais du coup, ouais, non, moi, j'étais plutôt l'improvisatrice. Alors, encore une fois, j'étais pas... j'écartais pas les autres ou j'essayais pas de prendre toute la place. Mais il y avait toujours ce truc où si je pouvais choper un rire, j'étais contente.
Je comprends. J'étais le même type d'improvisatrice.
Ah, mais ouais, mais c'est une drogue. Hein.
Avec des petites fautes de cabotinage au passage, quand tu veux faire juste rire ou de décrochage parce que tu ris trop aux blagues. Mais moi, je cherche le rire en permanence.
Mais c'est plus fort, hein. C'est plus fort que moi. Donc ouais, dans la pro. Et en plus, j'étais dans une team où les gens étaient vraiment très très cool et très très drôles. Et du coup, où tout le monde avait un peu ce côté, on se marre bien entre potes. Donc voilà. Donc c'était très chouette.
Mais donc tu l'as mentionné, tu as fait des études en communication, ça tu l'as pas dit, mais après tu as travaillé dans une banque,
ouais,
en tant que marketing manager. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu trouvais ça chiant?
Alors, ça dépend à quel moment. Tout début, quand j'ai commencé, parce qu'il faut, il faut savoir, parce que souvent les gens disent, mais 30 ans, c'est tard pour commencer un métier artistique, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été biberonnée quand j'étais ado à Sex and the City. Je suis vraiment la génération de filles qui, à 14 ans, découvre toi aussi.
Les deux garçons, je...
Mais oui, mais oui, non, mais c'est vrai, ouais. t'as raison.
Non, mais je suis un des seuls garçons qui regardait la série, mais j'étais accro à cette série.
Ah non, mais j'ai deux de mes meilleurs potes qui regardaient aussi beaucoup. mais j'adorais cette série, et donc, et moi je me voyais, enfin tu vois, l'image de la working girl, tu sais, avec ses petites Jimmy Choo, tout ça, la Carrie Bradshaw, bah c'était vraiment un objectif, quoi. Donc, je sais que quand j'ai voulu faire l'UNIF, parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire des études, après ils m'ont dit, une fois que t'as ton diplôme secondaire, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux étudier 10 ans, bah on te soutiendra et tu étudieras 10 ans. Et donc l'UNIF, j'avais très très peur, je me disais mais je serais pas capable, etc. Puis encore une fois là je me suis dit bah fais-le et puis pire tu te plantes et c'est pas grave, il y en a plein qui se plantent à l'UNIF. Mais du coup ça s'est bien passé, mais je sais que j'hésitais entre histoire de l'art et infocom. Et puis mon père m'a dit ouais mais dans les musées est-ce que tu vas gagner de l'argent? Et je me suis dit mais papa tu as raison. Après je cache pas, j'ai ce côté très très banque où l'argent ne fait pas le bonheur mais il y participe quand même un petit peu. Et donc voilà, donc je me voyais vraiment comme la working girl, m'acheter des chaussures et des sacs très très chers. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé à la banque, le marketing. Au début c'était hyper intéressant parce que c'était juste après la crise financière, c'était en 2011 aussi où il y avait tous les mouvements de Wall Street et tout. Et donc c'était très intéressant, quand je bossais au marketing, de voir comment est-ce qu'une banque pouvait un peu... c'est pas bien ce que je veux dire, mais mentir aux gens. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça drôle. Donc au début, ça m'a vraiment passionnée parce que en plus j'étais sur tout ce qui était digital, mobile, c'était le début des applications bancaires. Donc je bossais là-dessus. Donc au début, j'ai vraiment kiffé, je me suis vraiment amusée. Et puis à un moment, bon, pas très longtemps après, on va dire, allez, après 3 ans, bah je me disais, voilà, j'avais fait le parcours classique, donc j'avais eu des études, j'avais eu mon CDI, j'étais devenue cadre, j'avais très très vite augmenté, j'avais un très chouette salaire, j'ai pu m'acheter l'appartement où nous sommes aujourd'hui, j'étais proprio et tout, et en fait je me disais, bah c'est super, enfin, t'as 28 ans, t'as fait tout ça, mais il manquait quand même toujours quelque chose à ma vie. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'intime conviction que me marier et avoir des enfants n'allait pas être la chose qui allait combler tout ça. Et donc c'est là que ça a commencé en fait, où je me suis dit, il me manque un truc, mais j'étais pas encore vraiment dans le déni de la manque. Et une fois que j'ai commencé le stand-up, c'est là qu'on m'a perdu en fait. Très vite, c'est devenu en fait un job alimentaire, ce qui a rien à faire, ça paye quand même beaucoup mieux que l'humour. Et au début, tu gagnes rien au début dans l'humour. Et donc voilà, donc j'avoue que les 5 dernières années à la banque, j'étais là parce que j'étais payée et je faisais ce qu'on me demandait de faire. Les derniers mois, c'était écrit sur ma tête, je crois que j'avais absolument pas envie d'être là. D'ailleurs, on était d'accord pour se dire au revoir, la banque et moi. Et donc voilà, donc il y a des gens intéressants et c'est un métier intéressant. Mais bon, un open space à 200, des tours à 3000, enfin il y a un moment c'est toujours la même chose, et une fois que t'as plus la une fois que t'as découvert ta passion et que tu sais que tu ne te mens plus en fait, parce que c'est ça, hein, c'est que pendant des années je me suis menti et je me suis dit c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que j'ai envie d'être, et en fait non. Et une fois que t'as découvert ta passion, que t'as découvert ce qui t'a fait très instagrammeuse à chaque fois, mais ça a donné un sens à ma vie, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, je sais que je suis à ma place et il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être, et donc du coup la banque...
Oui, en comparaison, une fois que t'as goûté à ça, le revenir
voilà,
au travail...
Voilà, même s'il y a des gens formidables dans la banque, j'ai encore des gens qui sont, avec qui je suis amie aujourd'hui, mais ça me saoulait, et puis surtout en fait ça a révélé plein de choses en moi que j'avais un peu enfui, genre ça reste un monde très marketé, très formaté, et tu peux pas dire ce que tu veux, et alors que sur la scène c'est génial, tu peux dire ce que tu veux. Bon, après dans le monde de l'humour, c'est pas si loin que le monde du monde de la finance, parce que beaucoup de gens disent oh c'est pas rigolo, ou ah ça devait être un monde de requins, mais l'humour reste un business malgré tout, qu'on le veuille ou non, donc on va pas trop jouer les bisounours. Et donc voilà, après les humoristes, je sais qu'il y a plein de gens qui vont monter au créneau, mais pour beaucoup de gens, pour les professionnels, on est des produits, c'est-à-dire qu'on est un produit sur un marché, on doit faire vendre, donc qu'est-ce qui fait qu'on peut se différencier des autres? Est-ce que ce produit va être rentable? Les producteurs, c'est ce qu'ils se disent, hein, ils réfléchissent pas en tant que... Oui, il y a sûrement des coups de foudre artistiques. Mais donc voilà, donc c'est pas si éloigné de la finance et du marketing. Donc du coup, cet aspect-là un peu parfois cruel, parce que c'est un marché, il faut faire de l'argent. Du coup, ça, c'était assez familier pour moi et j'ai pas... Voilà, pour ce côté-là, j'étais prête, le côté un peu requin. Okay. Mais voilà, je préférais affronter les requins pour quelque chose qui a du sens que pour... finalement vendre des trucs qui m'intéressent pas et que j'achète pas moi-même.
Donc c'est en fait le bagage que tu as eu, t'es utile maintenant dans l'humour,
ouais,
pour vivre dans ce marché.
L'humour c'est de la communication, c'est du marketing, au-delà de la création artistique, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est beaucoup de com, et donc du coup ce côté-là ça va, je maîtrisais, c'était pas une trop grande inconnue pour moi.
Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu es arrivé dans l'humour avec l'académie du Kings of Comedy Club. Comment tu es arrivé à faire cette académie? Comme tu as dit, il y avait une petite graine qui avait été plantée 7 ans plus tôt. Puis tu as vu une annonce. Comment ça s'est passé?
J'avais vu... pas longtemps après avoir commencé à bosser, j'avais vu une fois une annonce, pas une annonce, j'avais vu un truc du Kings et j'avais un peu regardé, mais c'était passé, il n'y avait plus, et donc je m'étais dit bon. Et donc c'était un peu resté là, mais de façon très très lointaine. Et en fait, donc l'année où j'ai commencé, donc l'année où j'ai fêté mes 30 ans, donc c'est en août, il y a 5 ans, je reviens, parce que 30 ans, je sais pas si t'as déjà eu 30 ans, non, t'as pas encore eu 30 ans, tu vas voir, c'est un petit cap.
J'ai 27 ans.
Après, si tu fais ce que tu aimes, c'est moins difficile, c'est plus quand tu n'es pas épanoui que tu te poses plein de questions, et donc où vais-je, qui suis-je, pourquoi souffre-je. Et donc, je pars à Barcelone pour oublier que j'ai 30 ans, et du coup, je reviens de ce week-end et je vois sur Facebook une annonce pour l'académie. Et là, je me dis, bah vas-y, tente, appelle, et donc j'ai appelé. À l'époque, c'était Chloé Debon, je pense, qui travaillait encore au Kings of Comedy Club. Et nous, JP est encore très émue quand on parle de Chloé, qui est absolument magnifique, soit. Et donc voilà, et donc elle m'a dit, mais oui, t'es la bienvenue, etc. Et ça tombait pile poil pendant mes congés de septembre, 3 semaines. Donc je me suis dit, bah écoute, vas-y. Et donc c'était des cours d'écriture avec Alex Vizorek, Guillermo Guise, création de personnages avec Pablo Andrés, Freddy Tougo. Et je me suis dit, vas-y, go. Bon, au pire, ça se passera pas bien, mais c'est pas grave.
Je n'avais jamais entendu parler avant de faire des recherches sur toi et d'écouter ton podcast avec le What the Fun à guichet fermé. Je fais de la pub au passage. J'avais jamais entendu ça, mais si j'avais su qu'il y avait une académie d'humour comme ça, avec des artistes comme ça, ben je l'aurais certainement fait.
Il y en a eu pendant 4-5 ans. Et puis, je pense qu'il y a encore eu une année après qu'en humour, on est très vite des générations. Un an, c'est une génération, quoi. Donc, je sais qu'Emilie et moi, on était l'avant-dernière académie. Et juste avant nous, je sais qu'Ino JP, Dave Parker, Sarah Grosjean, ils avaient fait l'académie l'année avant nous. Okay. Donc voilà. Après, il y en a qui passent directement par le Next Prince, comme Funky Fab ou Guillermo Guise. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça, comme je suis quelqu'un une très raisonnée et très raisonnable, et du coup, ça me permettait d'y aller petit à petit. Je ne serais jamais montée sur scène comme ça et j'aurais jamais fait, je crois, une scène ouverte comme ça toute seule. Là, au moins, j'ai été accompagnée pour le faire et on m'a dit, maintenant, tu peux y aller, vas-y. Donc voilà. Donc c'était très cool. Donc ce serait cool qu'ils le refassent.
Et c'est ça que ça t'a apporté l'école, c'est le fait de t'amener tout doucement à la scène, d'avoir un petit peu une transition, ou ça t'a apporté beaucoup d'autres choses?
Oui, parce que moi j'aime bien, parce que je me dis toujours.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Toujours qu'il y a un mécanisme derrière, il y a quelque chose, et donc du coup c'était plus essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et après ça m'a juste permis, parce qu'à la fin de l'académie, Cédric Ventroyen, qui est le directeur artistique, m'a dit, bah écoute, tous les profs sont assez d'accord sur le fait que t'as du potentiel, donc on aimerait bien que tu fasses le Next Prince, etc. Et du coup c'était un peu, ok, il y a quelqu'un, un professionnel qui dit, vas-y, tu peux le faire, et voilà. Et depuis c'est ça en fait, c'est que ce soit les concours, les festivals, sur scène, etc., ben c'est les gens qui te disent, bah écoute, t'avais raison de le faire, et pour tout le monde n'estime pas que j'ai ma place, mais voilà, c'était une certaine légitimité, et oui, vas-y, tu peux oser le faire. Donc voilà, c'était juste oser le faire, et sans ça j'aurais peut-être pas osé.
Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais dans ta première scène?
Oui, parce qu'il y a encore un tout petit bout qui est dans mon spectacle. C'était parce qu'on nous apprend qu'il faut parler de soi au début, et donc c'était encore une époque où j'étais une personne... Alors la banque, ça fait pas trop rire, donc j'avais pas parlé de la banque, mais j'étais étudiante. En fait, jusqu'à ce que je commence l'humour, j'étais quelqu'un de très festif, donc je sortais beaucoup. J'ai beaucoup d'anecdotes. Soirée beaucoup trop alcoolisée, et donc voilà, donc j'avais un peu parlé du retour, tu vois, du lendemain de, tu vois, le lendemain de veille, ou tu vois là, et puis quand tu te réveilles dans le lit d'un inconnu et tout ça. Et donc voilà, parce que j'avais des potes extrêmement festifs, et donc j'ai fait un espèce de mix de nos expériences à tous Donc voilà, donc c'était un peu, oui, parler de moi, parce qu'ils te disent parler de toi, donc ma taille, le fait que voilà, je suis petite. Donc voilà, et donc ça, c'était, je pense, mon premier 6 minutes. Ça existe encore, mais un tout petit peu et un peu transformé. Et donc voilà, mais ça, c'était ouais, le tout premier.
Mais je crois que je me rappelle du sketch qui est d'ailleurs bon. C'est pour ça que je m'en rappelle. Moi, je suis dans le compliment, moi, tout le temps.
Voilà.
Tu fais ta première scène, puis après, tu fais le Next Prince of Comedy. Tu barudis.
Avec l'accent.
On le rappelle. Oui, il faut. Mais je suis prof d'anglais, donc je suis obligé.
Ah, Next Prince of Comedy Club, yeah, of course.
Je suis obligé de le faire parce que sinon, après, mes élèves vont m'écouter et vont dire: ah, mais vous le prononcez à la française. Je dis, non.
Non, c'est vrai. On se calme, les enfants. Je sais pas quel âge ils ont, mais.
C'est des adultes.
Bon, bah, on se calme quand même, les enfants. Ça suffit. Oui, où j'ai battu Rudy. Mais où Émilie m'a battue aussi.
Émilie t'a battue aussi.
Donc comme quoi.
Puisque Émilie a battu tout le monde.
Oui, parce qu'elle a gagné cette année-là. Mais après, j'étais ravie en fait. Pas sur le moment. Sur le moment, j'étais pas très contente parce que du coup, comme ça se passait bien, tu sais, comme dans les paris, des trucs, des chevaux de course, tu vois, j'étais un peu dans les ceux où on disait ah oui, enfin il y a des chances, etc. Et donc comme c'était le tout début, et du coup ça a été ma première claque. En fait, heureusement qu'elle est arrivée très vite parce qu'en fait c'est la scène. Faut se dire que rien n'est jamais acquis et que si ça va trop vite, je pense pas que ça te rende service. Après, chacun est différent, mais moi ça m'a permis de me rendre compte. Oula. Voilà, il faut bosser, il faut travailler, il faut... Et même si c'est un métier qui est merveilleux, c'est un métier qui est extrêmement dur aussi, extrêmement violent. Parce que bon, moi, on parle de... On est épanoui sur scène, machin, sens de la vie, mais je pense qu'il n'y a aucun humoriste qui osera me dire qu'il ne doute pas tous les jours, qu'il ne se pose pas des questions tous les jours, qu'il n'est pas là en se disant mais oui, non, pourquoi, est-ce que il faut que je m'améliore, il faut que je machin... Et donc voilà, donc... Ça m'a permis de me rendre compte, ok, c'est la première, mais il y en aura d'autres, et il faut tout le temps se remettre en question, et rien n'est acquis, et il va falloir bosser, ma petite. Donc voilà, donc j'étais ravie d'avoir perdu face à Emily.
Et comme on parle des claques, j'ai envie de savoir quelle était ta pire scène que tu as faite. J'adore savoir ça.
Bon, après, on va pas se mentir, il y en a eu quelques-unes. Ma pire scène. Attends, mais il y en a eu quelques-unes. Mais c'est juste que les premiers beats sont très très durs. Parce qu'au début, tu vois, comme t'es novice, tu vois, t'es pas encore très très sûr de toi. Tu le prends très personnellement quand les gens rient pas. Et donc, c'est vraiment. Mais les gens ne m'aiment pas. Alors qu'en fait, non, c'est peut-être juste. Voilà, ils kiffent pas, mais c'est pas contre toi personnellement. Et, mais bon, t'es encore très très fragile. Avec le temps, honnêtement, les beats maintenant. Bon, bah, une fois que t'as fait un beat d'une heure pendant un spectacle. Ça me fait pas plaisir, je vais me poser des questions. J'ai appris à faire en sorte que ça ne se voit pas, à faire le taf et à pas en mourir, à pas remettre toute ma vie en question après. Parce qu'au début, c'est ça, au début, tu remets toute ta vie en question. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se passe bien, t'es la reine du monde. Le lendemain, il y a une mauvaise scène. T'as l'impression que c'est une sous-merde, que tu vas tout arrêter, la vie, tout ça.
Moi, je crois que je la remets en question, peu importe comment se passe la scène. Mais... La scène se passe bien, je la remets en question en mode « Oh, il faut que je fasse de l'humour, il faut que je quitte tout, il faut que je fasse ça. » Et ça se passe super bien, je fais « Oh, il faut que je me taire dans un trou. »
Ça qui est horrible, c'est que quand c'est vraiment un truc qui te... C'est dévorant, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense à l'humour H24, quoi. Je dois être insupportable pour mon entourage. Heureusement, mon entourage me soutient beaucoup, mais comme tu vois ici, il y a tout le temps plein de trucs, je m'envoie plein de messages à moi-même. Donc on est tout le temps dans ce truc-là. Mais du coup, pour revenir à ma pire scène, et c'est très fort, parce que d'habitude, je me souviens rarement de la question initiale. Oh là là, attends, hein, il faut que... Parce que du coup, moi, au début, je pleurais après. C'était très très dur, parce qu'alors, tu sais, la toute première, pff, oh là là, c'est dur de se souvenir de la toute première. Oui, je pense qu'il y en a une. C'était à Rémicourt. Il y a un concours.
Il y avait un festival, il n'y en a plus.
Moi, j'avais pas fait le concours. En fait, il y avait la soirée de finale, mais qui apparemment déjà avait duré des plombes.
Oui, mais ça a duré souvent longtemps. C'est bien organisé. Le concours, je trouvais, mais ça durait longtemps.
Ça durait longtemps. Et sauf qu'apparemment, le Kings avait eu un deal et il voulait faire un spectacle après la soirée. Donc on était déjà arrivés après. Et c'était au tout début, donc je pense que c'était une soirée avec PE. C'est la première fois que je le rencontrais. Guillermo Guise, Freddy Tougo, je sais plus qui encore. Et ce qu'il y a, c'est que je me souviens qu'ils étaient tous là, parce que Guillermo, c'était la première fois que je le rencontrais. PE aussi était là, ouais, c'est pas grave, elle arrive, elle est super bien, tu vas voir, là, je me monte sur scène. Un tunnel, mais de 20 minutes, tu sais. En plus, je crois que les 4 premières rangées étaient vides, parce qu'il y a des gens qui étaient partis une fois que leur pote candidat était plus là. Il y avait juste un couple devant, tu sais, bras croisés, qui te regardent et qui parfois te fuient du regard. Ah, et c'était la première fois. Et j'étais là, je fais, mais tout le monde a dit à Guillermo, il y a que PE, que j'étais bien. Et là, ils vont se dire, bah non, elle est pas si bien que ça. Donc ouais, ça, je pense que c'était la première. Il y a deux moments. Donc, il y a celui-là. Après, des plateaux où j'ai fait des bides, il y en a plein. Mais c'est le premier spectacle où tu fais un bide. Une heure de tunnel. Ça, le tout premier, très compliqué. Mais après ça, tu peux tout faire.
Mais tu m'étonnes. Je crois que pire scène, c'est juste un tunnel de 15 minutes. Et c'est le truc que je le dis, j'ai un petit... J'ai... petite sueur froide comme ça, un petit truc qui revient de...
Oui, de loin.
De loin. De...
Mais tu vas voir, c'est les souvenirs. C'est... Finalement, ça va être tes meilleurs souvenirs. Et c'est... Parce que jamais entre potes, quand on parle entre humoristes ou même à des gens, jamais tu te dis, alors ce soir-là, c'était merveilleux. Oui, peut-être une ou deux qui étaient vraiment des moments incroyables, mais vraiment des trucs, mais c'est une ou deux. Mais sinon, globalement, on se souvient plus, on parle plus de nos bides parce qu'on se marre ou quand on était quelqu'un, par exemple avec Emily, au Festival du Rire de Bastogne, je pense qu'elle en pleure encore aujourd'hui. Quand on parle de ce bide, on en rit toutes les deux, tu vois, alors que jamais on va être là, oh là là, les Unis de Toulouse, c'était formidable. Ou, ouais. Donc voilà, donc franchement, je pense que c'est les meilleurs moments et c'est ceux où tu progresses le plus. C'est quand tu bides.
Et que tu te remets après.
Et que tu... il faut très très vite remonter sur scène, ouais. Par contre. Ouais. Parce que sinon, sinon, c'est douloureux.
Tu travaillais à la banque à ce moment-là, et tu jonglais avec la scène pendant 4 ans.
4 ans, ouais.
Tu as travaillé pour les deux et c'était, d'après ce que tu as expliqué dans le podcast du What the Fun, c'était vraiment beaucoup de travail et ouais. Tu étais littéralement épuisé, ouais. Ton corps lâché.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un des deux travails qui en pâtissait plus que l'autre ou c'était les deux qui en pâtissaient au final?
Non. C'était la banque qui en pâtissait complètement. Enfin, la banque, après, je connaissais mon taf et donc j'étais quelqu'un de très efficace. L'humour n'a jamais... L'humour était la priorité, quoi qu'il arrive.
Et quand tu as dit « je quitte la banque », est-ce que tu étais soutenue dans là-dedans ou...
Toi, la banque et moi, on s'est dit toutes les deux, okay. « Farah, tu vas quitter la banque ». Donc, ils étaient plus... Mais par contre, mais après, ça, c'est des trucs de dirigeants, de responsables, tout ça. Après, une banque, c'est pas une ONG, les gars, donc voilà. Mais je sais que, par contre, mes collègues, quand j'ai fait de l'humour, très vite, en fait, ils m'ont tous soutenu et j'avais plutôt une bonne image à la banque et je pense qu'il y a des seniors exécutifs qui m'auraient jamais adressé la parole mais qui du coup venaient me parler en me disant ah mais j'ai entendu que et machin parce qu'en plus comme c'est une banque c'était voilà une banque nationale du coup enfin, tu vois il y avait Wallonie, Bruxelles et Flandre et du coup en Flandre le stand-up a vraiment encore beaucoup plu et donc ils venaient en me disant ah mais c'est un stand-up comedian et donc voilà donc du coup non c'était vraiment un grand soutien je pense qu'à la première de mon spectacle il y avait je pense une rangée de 20 personnes qui venaient du boulot donc franchement, au boulot, les gens ont plutôt été très très cool et encore aujourd'hui, ils commentent, ils likent, ils m'envoient des messages. Donc, franchement, au boulot, c'était cool. Après, à un moment, certains responsables ont dit bon, bah, Farah, on sent bien que voilà. C'est le moment de partir. Mais finalement, ils ont bien fait parce que c'était le petit kick que j'avais besoin pour me dire ok, maintenant je me lance et parce que c'était. Oh, c'était infernal quoi. C'était vraiment. C'était chaud quoi. Quand tu dors 2 heures, t'étais en Suisse, tu prends l'avion à 6 heures, t'arrives à 8 heures. Moi, j'ai des souvenirs. Maintenant, je m'en fous. Je suis partie, donc je peux le dire, mais où je me suis endormie aux toilettes, quoi. Où je me disais, je dors aux toilettes pendant 1 heure parce que sinon, je vais décéder, quoi. Où je vomissais de fatigue, ou vraiment, où t'as un truc parce que t'es non-stop et la scène, c'est quand même le corps. En fait, c'est très violent pour le corps. Peu de gens le savent, mais en fait, quand tu montes sur scène, t'as vraiment tout ton corps qui se met en comme un guerrier ou comme un athlète. Les vaisseaux se dilatent, le cerveau se met dans. Et donc voilà. Donc c'est énorme. Très très énergivore et du coup quand la journée tu dois parler produits d'investissement sur 2025 et machin et que... en néerlandais d'ailleurs la plupart du temps ouais. Le cerveau à un moment il fait oula donc voilà donc très très dur mais 4 ans pendant 4 ans j'ai fait les deux ouais.
Mais tu es contente maintenant d'être full time humoriste.
Franchement, si quelqu'un, si, parce que je pense qu'il y a, pas je pense, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent, le jour où t'arrêtes ton boulot. Après, je pense qu'il faut être sûr de soi. Il faut
t'as mis les choses en place pour pouvoir le faire, en être sûr.
Pas avoir de mauvaises surprises, mais ce sentiment, le jour où tu quittes ton boulot, je me souviens le lendemain, j'avais un enregistrement d'ailleurs pour Teva à Paris. Je te jure, j'avais l'impression d'être une petite fille, quoi. Mais vraiment la petite fille qui regarde le monde autour d'elle en se disant, oh, je peux faire ce que je veux. Juste ce que moi je veux, parce qu'il n'y a rien à faire quand t'as un job et que c'est pas ta passion. Même si tu aimes beaucoup ton job, etc., c'est quand même beaucoup d'obligations, tu vois. C'est le fameux Outlook, les 8000 réunions, les mails, les machins. Et là, tout d'un coup, c'était oh, je vais plus devoir me connecter dans les hôtels, je vais plus devoir justifier, jongler sur ah oui, j'ai pris tel jour de congé, donc machin. C'était je peux gérer ma vie toute seule. Et ça, c'était un sentiment incroyable.
J'allais dire tu m'étonnes, mais je ne le sais pas. Mais
si, hein, je te le souhaite vraiment.
Peut-être un jour, c'est dans les réflexions continuelles de l'humoriste. Tu as fait énormément de concours et de festivals, que ce soit en Belgique, en Normandie. Tu as eu
toute la France, mon Dieu.
Tu as eu 3 prix au Printemps du Rire de Strasbourg, un autre au Festival de Rochefort. Est-ce que tu aimes ça, les concours?
Pas que j'aime ça, je pense que ça fait partie du jeu. Donc j'ai commencé le Nexprint et comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que l'humour, c'est en Belgique en tout cas, c'est un petit... c'est un petit circuit et très vite les humoristes, donc j'ai le souvenir de Soum ou Funky Fab ou qui étaient déjà installés, me disaient ah mais alors il faut s'inscrire à tel concours, faire tel, et donc il y a eu le Next Prince et je sais plus qui m'a vu où et ils m'ont dit, et c'est le festival de Bastogne, et ils m'ont dit ah mais on aime bien, est-ce que vous voulez pas venir faire le concours? Je dis ah oui pourquoi pas. Et en fait ce qu'il y a c'est que dans les festivals il y a plein d'autres festivals, il y a plein d'autres professionnels, et encore une fois j'ai pas géré en fait, c'est-à-dire que j'ai fait le Next Prince, j'ai fait Bastogne, de là on m'a dit est-ce que tu veux faire ça, et du coup en fait c'est à chaque fois tous les festivals qui me contactaient, et donc c'est vrai qu'il y a eu comme ça pendant 2 ans, c'était le tout début où j'ai fait le grand chelem quoi, c'est-à-dire que j'ai fait tous les festivals, mais après c'est génial parce que tu peux jouer, les festivals à l'époque c'était ce qui payait, parce que quand tu fais des premières parties bon c'est un peu gratuit, il y avait des prix, et du coup moi ça me confortait, et donc j'étais pris, mais je sais qu'après 2 ans j'ai dit ok à cette date là c'est fini, j'arrête les concours, parce que après, j'ai quand même cette vision très marketing de dire, voilà, c'était la phase où il fallait se faire découvrir. Une fois, parce que c'est un tremplin pour des jeunes talents, mais là, ça faisait 3 ans que j'en faisais. Je trouvais que par rapport à des gens qui jouaient depuis 1 an, c'était pas justifié. Mais donc voilà, donc pendant 2 ans, mais c'est, en fait, c'est vraiment. Alors, il y a certains concours où tu t'inscris, que t'as vraiment envie de faire, par exemple, comme le Vourire de Liège. Je me suis inscrite une première année où j'ai pas été prise, et puis la deuxième année où j'ai gagné. Mais sinon, oui, c'est beaucoup les professionnels qui te contactent et qui disent, est-ce que ça te dit de venir faire le tremplin? Et donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc c'est pas que j'avais un kiff particulier sur les festivals ou les tremplins que je ne connaissais pas avant de faire de l'humour. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Et donc voilà. Et puis surtout ça te permet de rencontrer d'autres humoristes qui arrivent un peu moins quand tu en fais plus. Je sais que les festivals ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres humoristes, découvrir ce monde-là, de jouer dans les villes à chaque fois, d'avoir des directeurs de théâtre qui te disent on aime bien, est-ce que vous avez un spectacle ou pas. Mais surtout de me faire des potes quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent en France, mais par exemple Julien Santini, Alexandra Pizzagalli, tous ces gens-là ont continué à s'envoyer, Bruno Pecchi en Suisse. Charles Nouveau, tous ces gens-là, on continue à s'envoyer des messages. Donc ça te permet de vraiment créer des amitiés parce qu'on vit des bons et des mauvais moments ensemble. Parfois, on passe plusieurs jours ensemble. Donc franchement, je regrette pas du tout. Mais ça doit rester. Enfin, les festivals, il y a plusieurs phases. Il y a la phase tremplin, puis après, là, il y a la phase où tu joues ton spectacle. Et puis, donc voilà. Mais j'étais contente de faire cette phase-là, mais ça doit rester une phase. Et puis surtout, j'avais plus la place pour mettre
tous mes trophées.
Oui, mais parce que par contre, les trophées, en humour, je ne sais pas pourquoi, sont assez conséquents. Voilà. Et si je peux, après, c'est mon côté un peu marketing et design scandinave, j'aime ça. Mais ils sont toujours très, très grands et pas toujours très. Tu vois, on n'est pas sur, on n'est pas sur du Rothko ou sur du, des œuvres d'art. Et donc du coup, mais merci à eux, ils sont magnifiques et j'en suis ravie. Et surtout, gagner des prix, ça permet de gagner beaucoup. Et donc du coup, voilà, j'ai fait le tour, j'étais contente. Et du coup, après, ça m'a permis, après ça, de pouvoir jouer mon spectacle à chaque fois dans les villes, donc à Rochefort, à Morges en Suisse, par exemple j'ai été à Mâcon, enfin tous ces festivals-là, après tu peux me
jouer au Québec aussi.
Ils achètent ton spectacle. Oui, mais ça c'est grâce à bien sûr Vincent et Bruno Taloche et Le Vourire, parce que j'avoue que ça c'est un des tremplins, si tu peux le faire et que tu peux le gagner, c'est vraiment très très cool, parce qu'à l'époque dans les prix tu avais le fait. En fait, comme il y a un partenariat avec plusieurs festivals, donc à l'époque il y avait le Marrakech du Rire, donc moi j'étais la dernière année Marrakech du Rire. Donc Marrakech du Rire, performance d'acteur à Cannes, Morges Sourire en Suisse et Comédia à Québec. Et en fait, à chaque fois tu vas jouer dans les festivals, il y a tous les tremplins. Et donc le Québec, c'était une expérience. L'accueil était formidable. J'ai découvert les shows d'humour québécois, mais ils sont à un niveau où on n'est vraiment pas là quoi. C'est-à-dire que c'était un gala, donc télévisé Comédia. Et c'était sur tous les humoristes de moins de 35 ans. Mais déjà, la salle, t'as l'impression, tu sais, d'être dans les salles américaines grandioses, des trucs des années 30 comme ça. Les gens font des standings à chaque. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où tu sens qu'ils sont drillés. Donc, c'était très intéressant. Et puis, surtout, culturellement, d'être confronté au Québec. Humoristiquement, on n'a pas la même culture. Et donc, au-delà même des référents où il faut essayer de trouver, ça se fait assez facilement si tu parles. Mais on n'a pas la même culture humoristique. Donc, on était tous un peu, que ce soit français, les Suisses ou les Belges, on était un peu déstabilisés parce qu'ils riaient pas aux mêmes choses qu'en Europe. Et donc, du coup, c'était très intéressant. Puis j'ai joué dans un bus scolaire. Ils ont fait jouer sous des tentes, des bus scolaires. Enfin, vraiment des trucs. On a fait des scènes ouvertes vraiment dans des vrais bars québécois. C'était une très très bonne école. Mais Bruno et Vincent, franchement, ils soutiennent énormément les jeunes talents. Et je me souviens qu'ils venaient voir nos scènes, les scènes ouvertes, les bus. Ils nous suivaient un peu partout. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Et j'avais jamais été au Québec. Et surtout, grâce à ça, je peux enfin faire l'accent québécois que je ne ferai pas Régis.
Mais c'était un grand rêve parce que je n'arrivais pas à le faire. Je le pratique régulièrement. J'adore cet accent. C'est mon accent préféré.
Quand je suis revenue, j'ai fait cet accent pendant un mois, les gens n'en pouvaient plus. Donc, très très belle.
Moi, je consomme énormément d'humour québécois, donc c'est mon.
Pour toi, c'est la base.
Moi, c'est la base. Et donc, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, moi, quand on me parle de Québec, de jouer au Festival Comédia, j'ai les yeux qui s'illuminent. Mais... J'en ai parlé avec PE, qu'il avait fait aussi avec Benoît Delabie, qui avait eu aussi cette chance de pouvoir aller jouer.
Je pense que Laura Lone et Cécile Junga aussi ont gagné, mais je ne sais pas si elles ont été au Comédia. C'est une expérience. Mais je pense qu'il faut rester plus longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se dire, par exemple, Paul Mirabel m'a dit qu'il avait fait ça, ou Tania Dutel, où tu restes 3 semaines, 1 mois, et tu fais des scènes ouvertes. Parce que je pense que tu peux partir de ton set rodé, mais pour moi il faut écrire sur place en fait. C'est comme faire de l'humour dans une langue étrangère, il faut pas traduire ton texte, il faut réécrire quelque chose là-bas. Donc pour moi il faut, et c'était très court parce que genre je suis arrivée le 8, c'était au mois d'août, le 8, et je repartais le 12 quoi. Donc et on a joué je crois 8 ou 9 fois sur 3 jours, mais vraiment top, vraiment très 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 cool.
Et ben voilà, ça me fait rêver.
Je te fais un peu baver là.
Un peu baver, oui. J'allais te demander, est-ce que t'es encore stressée de monter sur scène?
Oui, là la première au mois de juillet, j'ai vraiment retrouvé, mais c'est vraiment tout mon corps qui avait mal. Mais tu stresses, oui, différemment, c'est-à-dire que t'as appris à gérer. Au début, c'est vraiment un truc qui te prend trip et limite, tu trembles. J'ai retrouvé ça, donc là la première, et quand j'ai été à Montreux, c'était vraiment, parce que t'es derrière deux grandes portes comme ça, et on connaît tous, tu vois, la scène de Montreux, même si c'était un peu différent de celle dont on a l'habitude. Donc j'étais, et là je te jure, j'avais vraiment ce truc de nouveau quoi, où je disais mais Farah, respire, c'est une scène comme les autres, t'as déjà joué devant 5000 personnes, c'est pas grave. Et donc voilà, donc il y a parfois des moments où c'est vraiment, parce que soit c'est le lieu qui est énorme comme Montreux, soit c'est la salle qui est énorme comme le Zénith de Toulouse, où tu vois, tu te dis bam, mais c'est vrai qu'après, plus tu joues, plus ça devient un peu un truc, quand tu joues tous les jours, ça devient un peu un automatisme, donc le stress est différent. Du coup, c'est pour ça que c'est cool de tester du nouveau matos, parce que tu retrouves un peu, quand c'est rodé, même si les gens rient pas, tu te dis bah c'est rodé, c'est que je l'ai mal vendu ou qu'il y avait un truc, mais donc c'est bien de tester du nouveau parce que tu retrouves cette petite magie de est-ce qu'ils vont rire, pas rire, et alors cette émotion, le premier rire, la première fois que tu dis une vanne, tu ne retrouves jamais ce rire, je trouve. Parce que je pense que la façon dont tu le dis et la façon que tu le réceptionnes a quelque chose de très authentique d'une première fois. Donc voilà. Donc il faut tester pour retrouver ces petites émotions.
Et donc si tu devais choisir entre rodage et jouer son spectacle, tu choisirais quoi? Les deux? Mais si tu devais choisir?
Si on m'impose vraiment de choisir...
Tu ne peux plus faire que ton spectacle ou ne peux plus faire que du rodage?
Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais dire mon spectacle, puisque je triche, parce qu'en fait, dans mon spectacle, souvent, je teste des nouveaux trucs.
Bien joué. Bien joué, ça en est sorti très bien. T'as aussi fait plusieurs premières parties. T'as eu la chance de faire Laurence Bibeau et Blanche Gardin, j'ai lu.
Blanche Gardin au Kings of Comedy Club.
Ah, quand même.
C'était assez fou. Mais oui, il y a eu Kian Kojandi, Blanche Gardin, Laurence Bibeau, Guillermo Guise, Thomas Wiesel.
Bon, bah, je continue de baver.
Oui, il y a eu plein. Rachid Badouri au Cirque Royal, c'était assez fou. La personne la plus gentille du monde. Mais il m'a accueilli dans sa loge. Enfin, tu vois, directement, il parle de sa fille, si t'as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu ça. Genre, à la fin du spectacle, il te remercie quand il rentre de la première partie et il te rappelle à la fin. Combien d'artistes font ça? Mais donc oui, Laurence Bibeau, j'ai fait beaucoup pendant un moment, beaucoup ses premières parties, et c'est ça qui est cool avec Laurence, c'est qu'elle aime bien les jeunes talents. Donc maintenant je ne fais plus partie des jeunes, donc elle dit ma chérie, t'as plus besoin de mes premières parties. Mais c'était très très cool, c'était ma première grande salle, c'était à Saint-Michel. Je pense que ça faisait un an que je faisais du stand-up, donc c'est très cool. Et Blanche Gardin, bah, alors du coup là tu flippes hein. Blanche Gardin, Kian Kojandi, t'es content de le faire et en même temps tu te dis en fait Blanche et Kian Kojandi, Blanche comme c'était ma pote, Blanche Gardin et Kian Kojandi, ils sont désarmants de naturel et de simplicité en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui leur attribuons toute une série de, tu vois, comme les dieux de l'Olympe, comme ça. C'est la manière dont on les voit qui les rend impressionnants, mais eux en fait sont d'une gentillesse infinie, ils sont hyper cool, hyper chill. Donc c'est très déstabilisant parce qu'ils te parlent pas normalement en fait. Hein, et donc ouais, c'était très très cool. Et en même temps, tu te sens tellement petit, vraiment tout petit. Tu te dis, moi, est-ce que je veux vraiment oser dire mon texte devant ces gens-là? Oui, il y a eu Marina Rollman aussi, Tania Dutel au tout début.
Ouais, c'est bon, on a compris.
Ouais, non, c'est très très cool les premières parties.
Ah, finalement, tu viens de citer, je crois, quasiment tous mes humoristes préférés. Ah, Tania Dutel, j'adore. Kian Kojandi, j'adore. Blanche Gardin, Marina Rollman, c'est...
Et ils sont tous adorables, c'est ça le pire, ils sont incroyables, incroyables. Tu veux que j'en rajoute un peu?
Si tu en as, vas-y, fais ta plaisir.
Non, mais c'est ceux, je suis désolée pour ceux que j'oublie, mais...
C'est tous des gens que je veux recevoir dans le podcast, avoir l'occasion de discuter avec eux. Je serai impressionné pendant une semaine avant de le faire, ça c'est sûr. Mais moi, par exemple, Kian Kojandi, c'est
ton dieu absolu.
C'est mon dieu absolu dans les humoristes en ce moment. Clairement, son spectacle Pulsion, qui est sur YouTube, que je conseille à chacun des podcasts que j'ai fait.
T'as un pourcentage, en fait.
Mais j'aimerais bien... si je pouvais avoir la commission de pouvoir lui parler, ça serait le meilleur paiement.
C'est extrêmement gentil, extrêmement gentil.
Ah ouais. Mais ce spectacle est incroyable.
Il y avait Navo aussi qui était très très très,
oui,
très cool.
Oui, mais c'est pour moi, c'est quand je dis qui, Yann Colordi, c'est Navo, c'est une team.
C'est... Oui, c'est vrai que c'est un gros duo. Et donc ouais, mais il y a plein de gens comme ça qui sont. Mais c'est très très dur de jouer devant des gens que tu admires beaucoup. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, on n'est jamais très très bon devant les gens qu'on admire. Et donc, on se met beaucoup trop de pression. Donc voilà. Donc, ouais, plein de très très belles premières parties. Et c'est génial parce que du coup, ça te permet. Je me souviens que Tania, ça faisait pas longtemps. Et c'était Dan Gagnon parce que Tania Dutel venait jouer au Kings. C'est elle qui m'a expliqué parce que je la connaissais pas. Et je me dis, mais comment est-ce que t'as pensé à moi? Et elle m'a dit, j'ai appelé Dan Gagnon. Et il m'a dit, ah voilà, je cherche une première partie. Et c'est lui qui a donné mon nom. Et donc, j'étais surprise parce que je connais pas spécialement Dan Gagnon. Et donc voilà, et elle est super, super chill, et c'est grâce à elle, parce qu'il y avait une amie à elle qui était là, que j'ai été jouer la première fois à Paris il y a maintenant 3 ans. Mais faire les plateaux, quoi. Parce qu'aller à Paris, le spectacle, ça c'était il y a 2 ans, et faire le premier plateau. Donc non, vraiment, il y a plein de gens. D'ailleurs, Tania Dutel a sauvé mon passage à Montreux, parce qu'en fait, mon soutien-gorge sortait de ma robe, donc elle me fait para. Et mon soutien-gorge sortait, donc du coup, il y a des couturiers, enfin, les maquilleuses font de la couture, donc on a cousu mon soutien-gorge sur ma robe, enfin bref. Donc merci Tania Dutel d'avoir sauté. En tout cas, visuellement, mon passage à Montreux. Ouais,
peut-être qu'il aurait eu encore plus de vues, pour... peut-être, mais peut-être pas le genre de vues que voilà. Tu veux avoir.
Voilà, c'est pas mon corps de métier, quoi.
C'est génial, je bave d'envie, du coup j'ai envie d'arrêter là et de partir. Donc tu tournes avec ton spectacle qui s'appelle Résiste. Oui. De quoi parle le spectacle en gros, en quelques mots, pour ceux qui écoutent ce podcast?
Après, je pense que tout est dans le titre, mais voilà, c'est résister aux clichés, aux dictats de la société. Et donc on part des dictats de la société, les clichés, les stéréotypes, et puis après on va dans l'homophobie, la misogynie, le racisme, enfin voilà, toutes les cases dans lesquelles on voudrait enfermer les gens. Moi j'essaie de résister à ça et de dire on s'en fout de la case, on fait tout péter.
J'aime le titre, bien choisi. Non, je trouve que ça comme tu dis, tout est dans le titre, mais une fois que tu le dis, bien choisi. Moi les titres, c'est un truc que j'ai toujours fasciné par les gens qui arrivent à choisir des titres. Je trouve que c'est super dur de...
Et ça, c'est mon avantage d'avoir fait du marketing, d'être marketeuse. C'est que... Mais le titre est arrivé à la fin, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu la construction du spectacle, et puis il est arrivé très naturellement en fait, mais avec ce que je disais dans le spectacle. Mais je pense qu'il faut pas d'abord se dire je fais un titre, et puis ça doit... c'est vraiment, c'est la fin quoi, c'est comme ton affiche, tout ça. Ça, c'est l'avantage du marketing. Mais donc résiste.
Mais toi qui as eu l'occasion de jouer dans plusieurs pays, à l'étranger, tout ça, est-ce que tu as vraiment ressenti, donc avec le Québec tu l'as dit, mais avec la France et la Suisse, tu as vraiment senti une différence dans le public?
Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, et la seule fois où j'ai vraiment, c'était à Québec, parce que je pense qu'en fait c'est juste des Américains qui parlent français, et nous on n'est pas des Américains, et j'ai toujours le souvenir où, bon voilà, je sais pas pourquoi, j'adore faire des vannes sur la pédophilie, c'est comme ça, encore une fois c'est freudien, mais ça me fait beaucoup rire, sauf qu'en fait, à Québec, ils associent pas les Belges à la pédophilie. Je dis, mais enfin, oui. C'est un ressort connu, les Belges et la pédophilie.
Alors qu'on est très bon là-dedans.
On excelle, les gars. Enfin, je veux dire, on est les meilleurs. Et donc, du coup, j'ai le souvenir à Québec où je demande à des gens que je connais pas, des Québécois qui m'ont regardé. Et je fais, ok, donc vous connaissez pas Marc Dutroux? Très bien. Je fais, est-ce que vous avez des pédophiles célèbres? Et là, ils m'ont vraiment regardé. Genre, mais qui est cette personne étrange? Donc, ça, c'était très dur. Mais par contre, quand tu vas en France et en Suisse, à part quelques vraiment des petites différences, c'est vraiment un film, donc je sais exactement dans mon spectacle les éléments qui peuvent ne pas être connus en Suisse et en Belgique, mais du coup à force je sais comment changer parfois en fonction d'une ville, mais honnêtement France, Belgique, Suisse, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est ce que le public aime, c'est-à-dire est-ce que t'es face à un public qui aime l'absurde, est-ce que t'es face à un public qui aime l'humour noir, et c'est juste ça qui va déterminer le bon ou le mauvais moment. Mais pour moi, à part quelques référents culturels, il n'y a pas une grande, il y a aucune différence entre France, Suisse, Belgique.
Donc tu vas avoir un succès à l'international. Je te le souhaite.
Ouais, écoute, on le souhaite tous, bien sûr, parce que toute l'humanité rêve que je réussisse.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour?
Faire. Avoir ce moment où je dis ma punch et que les gens rient. C'est... En tout cas, pour moi, c'est la seule... Enfin, c'est l'intérêt principal, c'est d'avoir cette explosion de rire comme ça. Alors, je pense qu'il y a quand même un truc très... Parce que les gens qui te disent « Non, mais on nourrit l'âme, c'est pour l'amour des gens. » Non, c'est très égocentrique. Je pense que c'est une caresse à notre ego. Et donc, voilà. Donc, ouais, le kiff d'entendre le rire. C'est pour ça qu'on passe des mauvais moments quand les gens rient pas, parce que s'il n'y a pas ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est juste de faire rire les gens.
Mais quand elle a dit le rire, je fais le commentaire audio, il y a eu un sourire qui s'est affiché vraiment du fond de l'âme, qui est sorti, les yeux qui sont ouverts, les pupilles sont dilatées. On a vu tout de suite que...
Le cœur bat plus fort, c'est incroyable. Elle a une petite goutte comme ça qui est tombée en dessous de sa chaise d'émotion.
Ça, j'ai pas osé le dire, mais voilà, ça, c'est glissant maintenant.
35 ans, la continence, on n'est pas loin, tu sais. Ça va plus vite qu'on ne le croit. Hein.
Et du coup, je te demandais, mais qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour ? Parce que certains, c'est le côté marketing. Toi, tu as dit que tu étais à l'aise avec ça.
Alors, je suis à l'aise avec le côté marketing, mais ce que j'aime le moins, c'est vraiment les réseaux sociaux. Je le fais parce que aujourd'hui, ça fait partie du taf et t'es vraiment obligé. Mais moi, je suis quelqu'un de très, dans la vie, de très basse. Je te disais, de très pudique et très discrète. Donc, moi, honnêtement, si je faisais pas d'humour, Instagram, Facebook, ça fait longtemps que je n'y serais plus. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment de se dire, OK, il faut communiquer, il faut poster, il faut, tu vois, parce qu'alors, il faut, enfin, tu vois, il faut, c'est un stress parce qu'après, il y a toute la phase avant de préparation d'un post, parce que tu vois, moi je réfléchis bien à quel post, comment, parce que j'aime pas poster tout et n'importe quoi pour le fait de dire je poste tout et n'importe quoi. J'aime bien que ce soit pertinent ou utile à ma carrière, mais donc du coup, tu réfléchis quoi, comment, il y a l'infographiste, ok, je veux tel truc, telle date, et puis après, c'est il faut sponsoriser, à quelle heure je le poste, quel jour, et puis il n'y a pas eu assez de likes, les likes montent pas, comment ça se passe. Et je trouve que c'est beaucoup de stimuli négatifs, et ça, pour moi, ça pollue beaucoup le travail et la création artistique, je trouve. Beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais voilà, on est obligé de se vendre et de se prostituer. Voilà, en fait, j'ai l'impression d'un peu me prostituer sur les réseaux sociaux. Mais continue à liker ma page.
On va maintenant conclure en passant par ce que j'appelle l'interview name dropping. Je te demande à chaque fois de me citer un humoriste ou une humoriste, homme, femme, québécois, suisse, français, canadien, serbo-croate, chien, chat, si. Okay. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré.
Rachid Badou.
Tu l'as dit tout à l'heure, donc ça tombe sous le sens. L'humoriste qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore le plus.
Gaspard Proust.
Celui que tu regardes tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait.
Gaspard Proust.
Celui ou celle qui t'a donné envie de monter sur scène.
Alors là, Florence Foresti. J'étais très 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 fan. Parce que je vais pas souvent voir des spectacles, mais elle, j'ai vu. Donc merci Florence.
Je comprends. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte que tu t'es dit waouh, c'est incroyable, tu l'avais pas vu venir? Par exemple, on a souvent cité Paul Mirabel parce que la vidéo est arrivée, est devenue virale et il est venu de nulle part.
Merci, c'est moi. Paul, je l'ai découvert avant, c'était juste avant, donc ouais, en janvier, donc un an et demi déjà. C'était juste avant qu'il gagne les Bêtes de l'humour et tout ça. Et en fait, je l'avais vu, je faisais un plateau à Lille parce que j'allais jouer mon spectacle, et donc c'était pour faire un peu la promo. Et je me souviens que donc il y avait Paul qui était là et qui avait Moadji, et lui dit ah mais c'est pas donc. Maintenant, quand tu te dis ça, tu te dis mon Dieu. Donc Paul Mirabel qui disait ah mais c'est Farah qui a gagné l'année dernière les Bêtes de l'humour, donc il était tout mignon comme ça tout. Et il est monté sur scène et j'ai fait waouh, j'ai dit c'est qui ce gars, il est incroyable. Et après bah, du coup j'ai partagé plusieurs scènes avec lui, donc avec Julien Santini à Genève, on a fait une scène mémorable au festival de Genève d'ailleurs qui est incroyable. Donc c'était bien avant sa vidéo Montreux, donc du coup je le connaissais avant, on a partagé plein de plateaux. Et ce garçon est d'une gentillesse infinie. Alors j'ai pas vu son spectacle, du coup je le connais. On a partagé un 30-30 juste avant le confinement à Toulouse, donc je connais son 30-35 minutes qui est vraiment ouf. Donc lui c'était la dernière claque, et je pense qu'avant lui, Alexandra Pitté. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir son spectacle, ce spectacle c'est juste une claque, enfin, c'est incroyable, et je trouve qu'on ne la voit pas assez par rapport à son talent, mais vraiment c'est un très très beau spectacle.
Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime? Si on n'a pas, il n'y en a pas, on peut passer à la question.
Est-ce qu'on surestime toujours? Je pense qu'à partir du moment où on est fan, de toute façon on surestime parce qu'on est plus objectif. Tu vois, moi je pense que Gaspard Proust, je suis plus du tout objective, et que moi j'avais le souvenir par exemple quand je vais voir par exemple Gaspard Proust, il est même pas là que j'ai déjà déjà le sourire. Donc t'es déjà dans une dynamique où le mec peut me dire n'importe quoi et je vais donc je pense que on surévalue tous les artistes qu'on admire. T'as vu cette pirouette?
Bien joué. Oh, hein. Spectacle que tu recommanderais le plus?
C'est dans la tête d'Alexandra Pitaké.
De tous les temps, de tous les spectacles, c'est ça?
Ah, si, de tous les temps. Alors, c'est Gaspard Proust.
C'est Gaspard Proust. Mais le spectacle, celui...
Les deux. Gaspard Proust Tapine et l'autre, ça s'appelle juste le nouveau spectacle. J'ai été le voir à l'Olympia il y a un an. Et d'ailleurs, je me souviens, je commençais à la nouvelle scène et j'étais voir Gaspard Proust à l'Olympia et je me suis vraiment dit, mais arrête ce métier directement. Et juste après, j'ai été voir Eddie Izzard qui était en rodage à la nouvelle scène. Et c'est assez ouf aussi. Eddie Izzard et Gaspard Proust, ouais. vraiment incroyable.
Maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel tu préfères, dans le sens lequel te fait le plus rire.
Ah oui, artistiquement.
Artistiquement.
Pas humainement.
Pas humainement, ça peut être une personne que tu trouves détestable mais qui te fait tellement rire que...
que ça passe.
C'est ça passe. Entre Blanche Gardin et Nawel Madani.
Blanche Gardin. C'est pas une question de préférer, mais je me retrouve plus... Même si je fais pas du Blanche Gardin, mais je me retrouve plus dans Blanche Gardin. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas retirer à Nawel Madani, c'est que c'est une showgirl, enfin c'est un show de fou furieux, c'est une énergie, elle a une niaque. Je trouve qu'elle est impressionnante dans son mantra comme ça, l'énergie qu'elle met dans les choses. Je trouve qu'elle est vraiment très très impressionnante et qu'on devrait vraiment prendre exemple sur elle. Mais d'un point de vue vraiment artistique, je me sens plus proche d'une Blanche Gardin.
Ouais, mais de toute façon, c'est vraiment deux styles très différents, radicalement opposés. Showgirl et stand-up.
Mais ça ne retire rien au talent.
Au talent des deux, non, clairement. Mais bon, je vais le dire, je le dis à chaque podcast, mais toutes les personnes qui sont citées ne sont que des personnes ultra talentueuses.
Après, je pense que globalement, Nawel Madani s'en fout un peu de mon
avis. Oui, je pense aussi, mais.
Mais voilà, mais comme je dis souvent, c'est comme plein d'artistes, peu importe la discipline, tu peux ne pas aimer, mais tu peux saluer le talent derrière. Et donc voilà, là c'est plus une question de sensibilité.
Choix suivant, tu dois choisir entre Gaspard Proust et Louis C.K.
Oui, Gaspard Proust.
Gaspard Proust directement, il n'y a même pas de réflexion directement. Ah, d'ailleurs, on dit Gaspard Proust, un sourire s'affiche directement.
Mais oui, mais je sais, alors que ce mec, voilà, c'est pas un personnage hein, sur scène, c'est lui. Hein, donc voilà, donc, mais j'adore, je sais pas pourquoi, cette espèce de truc de pas de filtre, voilà, j'adore.
Et une plume.
Plus c'est méchant,
incroyable.
Mieux c'est. Et il est parfait.
Entre Paul Mirabel et Ino JP.
Oh non ! Ah non, parce que pour moi, honnêtement, tous les deux, c'est des génies. Je trouve que Ino JP est beaucoup trop sous-coté, comme pour utiliser des langages financiers, beaucoup trop sous-coté. Donc... Et ils sont tous les deux des amours. Ah oh, ah. Oh. Alors, je vais faire un choix sur vraiment la base de... Les deux m'impressionnent, je les trouve ouf. Mais je me retrouve plus dans ce qu'écrit Ino JP que Paul par exemple, parce que Paul c'est vraiment un personnage, le personnage du loser, et c'est pas du tout ce que je ferais sur scène, alors que Ino, en fait Paul c'est le personnage est tellement fort etc, mais je me dis pas, il y a jamais une vanne où je me dis ah je suis jalouse, alors que Ino parfois je me dis bam, celle-là elle est... je me vois bien dire certaines vannes d'Ino JP, là où Paul son personnage est tellement, c'est tellement Paul que je peux pas faire de transfert, il me fait hurler de rire, humainement il est incroyable. En fait c'est ça, c'est que les deux me font hurler de rire. Les deux ont un talent et une modestie, c'est vraiment deux très belles personnes. Mais je pense que dans l'écriture, je suis plus proche d'Ino JP.
Moi ce qui est marrant, c'est que j'aurais dit que je me sens beaucoup plus proche de Paul Mirabel.
Ouais.
Et que Ino m'a fait plus rire.
Ah ouais.
Mais que Paul me touchera plus, mais en fait on m'a marqué dans plusieurs posts pour me dire ah on dirait toi.
Ah ouais.
Et ouais, je ne pouvais qu'admettre que c'était vrai. Je me reconnais énormément dans ce.
Rien, enfin, il faut te différencier.
Hein. Ouais, il faut me différencier. Mais bon, je suis quand même.
Après, il a un physique très très particulier.
Voilà, aussi. Mais je suis pas dans le même style, mais dans la personnalité, je me suis reconnu beaucoup et j'ai partagé. J'ai trouvé ça génial parce que je trouvais que c'était un côté qu'on n'a pas vu souvent et je pense que ça peut être sa force.
C'est ça en fait. Je trouve que pour moi, c'est le même effet wow que j'ai eu, par exemple, quand j'ai découvert une vidéo de Farid il y a quelques années. Parce que j'ai vraiment matché en me disant, mais il avait une musicalité qu'on n'avait jamais entendue. Et Paul, en fait, c'est souvent ce qui fait que ça expose, une Blanche Gardin, Farid, ou c'est des musicalités qu'on n'a pas entendues. Et c'est pour ça que moi, je regarde pas tant de spectacles que ça. Okay. Parce que j'ai pas envie d'être trop influencée. Parce que qu'on le veuille ou non, les gens qu'on aime beaucoup, on est un peu influencés. Et il y a eu toute une mode comme ça où il y avait plein de mini Farid un peu partout. Maintenant, il va y avoir plein de mini Paul Mirabel, il y a eu plein de mini Blanche. À partir du moment où la musicalité t'apporte quelque chose qui n'existait pas, c'est waouh. Et Ino JP, je trouve qu'il a une musicalité que personne n'a. Et en fait, ce qui fait que je me retrouve un peu plus en lui, c'est que les thématiques qu'il aborde, tu vois, il a une vraie réflexion sur le monde et il déconstruit plein de choses, tu vois, avec son parcours, avec tout ce qu'il est. Donc deux personnages très très fort et incroyable, mais si je devais être jaloux du travail de quelqu'un, ce serait Ino JP.
Choix suivant entre Laurence Bibeau et Florence Foresti.
Laurence. Après, j'aime beaucoup. Bah, voilà, je t'ai dit, moi j'étais fan de. Je pense que je connaissais son premier spectacle par cœur, le deuxième aussi. Je regardais toutes les émissions Laurent Ruquier, on a tout essayé. Mais ce que j'aime beaucoup chez Laurent, bah déjà je la connais, Florence Foresti, je ne la connais pas. Mais Laurence Bibot, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très. C'est très belgo-bruxellois en fait. Il y a vraiment un truc de. Je sais pas, il y a une sorte d'attachement. La Belgique, elle a vraiment un ton comme ça, elle a comme ça cette air parfois un peu de la bourgeoise, un peu distante, alors qu'en fait elle est hyper rock'n'roll. Donc, Laurence Bibot, parce qu'elle a quand même dans ses spectacles quelques belles pépites.
Entre Fary et Kian Kojandi.
Eh ben, j'ai vu les spectacles des deux et je vais choisir Fary. Encore une fois, parce que en fait, dans la même démarche qu'avec Inou et Paul, c'est-à-dire que c'est deux personnages très forts, je ne fais pas ce que fait Kian, parce que Kian, tu vois, en fait, Kian, c'est un, pour moi, son spectacle, il raconte une histoire. Et c'est, je trouve ça, je suis incapable de faire ça, tu sais, à chaque fois avec des callbacks et des, tu vois, c'est tout. Il te tient son deuxième spectacle, il te tient sur une soirée, quoi. Alors que Fary, il va de nouveau aborder des thèmes de société qui me font rire, tu vois, quand il arrive. Après, je vais pas spoiler, mais bon, après, c'est sur Netflix, donc les gars, il est temps de voir son spectacle. Mais tu vois, le premier truc qu'il dit dans son spectacle, t'as la musique, il tape avec son micro et il fait Éric Zemmour. Rien que ça, j'étais là. Et je trouve qu'il a apporté, en termes de com', il est très très fort aussi. Je pense qu'il se met encore certaines barrières sur certains sujets. Il pourrait aller un peu plus. Mais artistiquement, je me sens plus proche d'un Fary, mais les deux sont assez incroyables. Fary, j'ai le souvenir quand j'ai vu la musique de Montreux il y a quelques années, c'était au tout début, je faisais de l'humour. J'ai vraiment eu ce. Parce que, étrangement, je ris pas facile. Enfin, j'aime bien rire, mais. Face à des... Donc, je comprends que quand les publics sont rudes, parce que moi, je dois pas vraiment être. Pas le public le plus... Parce que si ça me fait pas rire, je me force pas. Soit tu me fais hurler de rire et tu vas m'entendre très très fort. Et donc voilà. Donc Fary, c'est vrai que ça avait été aussi un peu comme Paul, comme ça, ce truc où tu te fais... on n'avait jamais entendu ça.
Moi, je suis par contre très très bon public. Donc si je suis à une scène, tu m'as pas entendu ou tu m'as... Non, mais vraiment, c'est que j'aime pas. Je peux pas faker. Si tu me vois dans le public, je ne suis pas en train de rire, je peux pas te dire après, oui, j'ai trouvé ça bien. Non, si j'ai pas ri.
Tu vois, je peux juste avoir un grand sourire et. Même avec Gaspard Proust, hein, j'ai parfois des grands sourires, tu vois. Je vais souvent avoir une vanne comme ça, un truc tellement fort et je vais avoir une. Mais je vais pas être la fille, parce qu'il y a des. Et heureusement qu'ils existent et heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme moi dans le public. Des gens, tu sais, qui vont le rire comme ça tout pendant une heure, ils sont incroyables. Mais moi, j'avoue que ouais, je ne suis pas super facile à faire. Et en plus, depuis que je fais ce métier-là, c'est encore plus difficile parce qu'on est dans l'observation. On n'est plus dans le plaisir simple, on est juste dans l'observation, on écoute.
Choix suivant, on va partir sur des Américaines, ouais. Entre Amy Schumer et Sarah Silverman.
Sarah Silverman.
Oh, ça va direct, c'est bien. Entre Emily Crone.
Et Sarah Silverman. Sarah Silverman. Emily Crone, bien sûr.
Entre Emily Crone et Gaëtan Delferrière.
Oh, c'est dur. Je vais tricher et je vais dire que j'ai jamais vu le spectacle de Gaëtan et j'ai vu Emily. mais ils sont. Mais par contre, aussi très différents tous les deux. Gaëtan, mais je serais incapable de faire ce qu'il fait. Il n'a aucune barrière quand il crie sur scène. Moi, je rêverais de pouvoir faire ça. Et je serais incapable. Très absurde. Tu vois, par exemple, l'humour absurde, je ne suis naturellement pas attirée par ça. Mais quand je vais voir un spectacle absurde qui me. Tu vois, comme quand je vois un Gaëtan ou Eddie Izzard, tu vois, ou Yacine Bellous, je serais incapable de faire ça. Mais ça me fait rire. Donc, tu vois. Oui, ok, je suis plus Gaspard Proust et humour noir, Pierre-Emmanuel Barré, Éric Lamprey, ce genre de choses. Mais voilà, même les disciplines que je maîtrise pas. Je trouve que Gaëtan, il fait partie de ces gens-là. Et Émilie, ce qui est fascinant, c'est que, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui sont comme elle, parce qu'elle a une sorte de... C'est aussi un peu un ovni, elle joue un peu, c'est un peu le bisounours qui est l'antithèse des clichés sur les humoristes féminines, donc voilà. Mais Gaëtan, je n'ai jamais vu son spectacle, d'ailleurs il va me dire, bah, il était peut-être temps, hein. Mais à chaque fois on se loupait, donc Emily Crone. Et puis même, elle a la priorité sur les 5 ans. Une sorte de hiérarchie dans le temps, elle était là avant, donc bon, bah... mais je t'aime Gaëtan.
Entre Guillermo Guise et Pablo Andrés.
Guillermo.
Entre Cody et Alex Vizorek.
Ça, c'est très, très dur.
Mais je sais, j'ai bien choisi.
Parce que les deux, ils sont juste adorables. Mais vraiment, adorables. Et ils font deux choses complètement différentes.
Mais qui te fait le plus rire ? Le suspense est placé. Elle regarde dans le vide en cherchant une réponse.
Ça,
c'est dur. Ah, je suis content.
C'est des rires tellement différents. Oh, non, pas... Ah.
Elle cherche un moyen de s'en sortir.
Ouais, je cherche un moyen de m'en sortir. Parce que là, je suis incapable de choisir... Mais je veux dire que Cody m'a mis sur plus de plans. que Alex. Non, mais Alex, par contre, c'est cool parce qu'il like beaucoup, il poste et s'il a un truc, il te contacte. Mais c'est vrai que Cody, je sais pas pourquoi. Comme un grand frère, comme ça, depuis le début, il est très. On a été jouer à New York ensemble. Il m'a invité pour les 10 ans de. Ses 10 ans de carrière au Vous. C'est lui qui m'a invité au Magritte. Donc voilà. Donc je vais plus jouer la carte sentimentale et relationnelle que artistiquement, parce que ça, c'est impossible de choisir entre les deux. Et même humainement, il n'y en a aucun des deux. C'est juste deux pépites. Mais avec Cody, j'ai eu. Allez, on a. Cody, c'est pourquoi je le dis. Avec Cody, on a vécu New York. Et rien que pour ça, ce sera vie.
Et ben voilà, tu as réussi à t'en sortir sans dire de mal de personne. J'adore cet exercice de fin de podcast parce qu'à chaque fois, les gens essaient de se dépatouiller et de placer des compliments pour les deux personnes.
Mais là, pour le coup, c'était sincère. Il n'y avait personne où je me disais...
Mais je fais vraiment pas ça pour briser des amitiés. Oui. C'est juste, ça me fait un peu rire de voir comment les gens...
J'espère qu'Amy Schumer va pas m'en vouloir. Voilà.
Parce que Sarah Silverman est arrivée vite quand même.
Oui, oui, et pourtant au début j'aimais beaucoup Amy Schumer, et puis j'ai découvert Sarah Silverman, et
voilà. C'est là que tu retournes à New York, tu vois Amy Schumer qui fait Sarah Silverman, Sarah Silverman.
Peut-être, qui sait, peut-être que tu as brisé quelque chose avec moi et Amy. Je me vengerai avec Ian et Nan.
Ok, si un jour tu vois Amy, tu peux. Alors, la toute dernière question que j'aime poser, je la pose dans chaque podcast, je l'ai piquée à Dan Gagnon, je le dis à chaque fois aussi, qui demandait à son invité, à la fin de l'épisode, qui est-ce qu'on devrait inviter dans le prochain épisode ? Des gens que je pourrais peut-être recevoir un jour dans ma vie. Amy Schumer, j'ai déjà contacté, elle ne répond pas. Ouais. Gaspard, je peux tenter.
Tu sais quoi, je vais t'en dire plein, tu te débrouilles. Ina JP, Emily Krohn, Paul Mirabel, Gaëtan Delferrière, Florent Le Saut. Voilà, tu fais ce que tu veux avec ça.
Ok, ça marche.
Dena aussi est très cool. Et Serine est très cool aussi. Déjà reçue. Serine, à mon avis, tu vas beaucoup rire aussi pendant une heure.
Ok.
Ben voilà, j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées.
Alexandre Kaminek aussi. Charles Nouveau. C'est très très drôle. Marina Rollman ou Alexandra Pizzagalli.
Eh ben, ça fait déjà une bonne petite liste. Hein.
Je peux continuer.
Ça marche. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté sur le podcast avec
toi,
moi.
C'était
vraiment cool à faire. Je pourrais te parler d'humour encore longtemps. Mais déjà, je te mets en retard. Et donc, à un moment donné,
c'est pas grave.
Mais donc, si vous voulez retrouver Dena, vous pouvez avoir toutes les infos sur son Insta, sur Farah. Je viens de dire Dena parce qu'on vient de dire.
Mais je me suis dit, pour qu'on peut faire la promo de Dena aussi. Elle commence Vivacité la semaine prochaine. Donc, écoutez-la sur Vivacité dans le 8-9 la semaine prochaine.
Ouais, je pense que le podcast sortira après la semaine prochaine, mais allez voir les épisodes de Dena en retard.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, vous pouvez suivre les infos de Farah sur son Instagram, sur son Facebook.
Vous pouvez liker les deux pages, Farah humoriste officielle. Et encore une fois, l'officiel, c'est pas parce que je me prends au sérieux, mais sinon, vous tombez sur des actrices. Vous pouvez liker, mais ça m'arrange pas.
Vous pourrez peut-être plus facilement partager les vidéos.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que vous éprouverez moins d'émotions avec mes vidéos qu'avec les autres pharaons du Moyen-Orient.
En tout cas, peut-être pas le même style d'émotion.
Pas les mêmes émotions.
Et encore, on ne sait pas qui écoute.
Le rire n'est jamais loin de l'orgasme. Hein. Est-ce que finalement, c'est pas une forme d'orgasme, le rire ? Bam ! Question ouverte, c'est parti, t'as 3 heures.
Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner au podcast Humeur Humoristique sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcasts. Mettez des étoiles, dites à tout le monde que c'est fabuleux, que c'est le podcast qui a changé votre vie. Même si c'est pas vrai, de toute façon, moi, tant que des gens écoutent, ça me fait plaisir.
Je le dirai à Amy qu'elle doit liker ton podcast.
Ça marche.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Je coupe ça. Hop.
Yeah.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.